Vous écoutez
RMC.
7h sur RMC, un excellent réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quelques petits nouveaux aux côtés des cadres de l'équipe de France. Didier Deschamps a dévoilé sa liste, sa toute dernière pour le Mondial. On va tout vous détailler dès le début de ce journal. Une fusillade sur fond de trafic de drogue dans un quartier populaire de Nantes hier soir. Un adolescent de 15 ans tué, un garçon de 13 ans toujours entre la vie et la mort. Et puis, il n'avait pas fait aussi froid depuis 2010 pour le pont de l'Ascension. On vous emmène à Saint-Malo où les touristes doivent braver le vent.
La dernière liste de Didier Deschamps qui a dévoilé hier son groupe pour le Mondial.
Et c'est avec 26 joueurs qu'il partira le mois prochain pour sa dernière compétition avec les Bleus. Le sélectionneur, comme à son habitude, il s'appuie évidemment sur ses cadres, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Mais il y a quand même quelques petites surprises. Nicolas Pelletier, vous êtes en direct avec nous ce matin sur RMC. Il y a trois nouvelles têtes que le grand public va découvrir.
Oui, la plus grande surprise s'inscrit au rang des gardiens de but. Robin Risser, 21 ans, élu meilleur portier de Ligue 1 avec le RC Lens cette saison et qui n'a jamais été appelé en bleu, va vivre un mondial avec l'équipe de France en tant que troisième gardien. Le natif de Colmar profite notamment des malheurs de Lucas Chevalier, devenu remplaçant au PSG. L'autre surprise, c'est la convocation de Maxence Lacroix. 26 ans et seulement deux petites sélections chez les Bleus. Le défenseur de Crystal Palace a réalisé un excellent rassemblement au mois de mars. Didier Deschamps a donc décidé de lui prolonger sa confiance. Le grand public devra aussi apprendre à connaître Jean-Philippe Mateta, l'attaquant de Crystal Palace, compte trois sélections avec l'équipe de France et il a été préféré à Randal Kolo Muani, pourtant présent au Mondial 2022. 26 sélectionnés et donc beaucoup d'absents. Didier Deschamps a décidé de se passer d'Eduardo Camavinga en difficulté avec le Real et de deux joueurs en forme en Ligue 1, Corentin Tolisso et Florian Thauvin.
Et donc Nicolas, cette équipe sur le papier, elle a tout pour gagner ?
De l'expérience, des petits nouveaux et surtout une force de frappe offensive qui fait trembler les concurrents directs au titre mondial. Et dans sa dernière compétition avec le groupe bleu, Didier Deschamps s'appuiera sur un effectif avec 26,4 ans de moyenne d'âge. Sans être l'objectif officiel du côté de la fédération, on a provisionné un quart de finale du côté du budget.
Nicolas Pelletier, bon en tout cas pour Didier Deschamps, l'objectif, il est assez clair.
L'objectif, demandez à mon président, il va vous le dire, il n'y a pas de souci, mais je ne pense pas qu'il va me dire, oh, faites au mieux, ça va, ça me satisfera. On va tout faire, à chaque fois, et avec l'ambition, mais l'humilité, c'est suffisante aussi, parce que c'est le très haut niveau.
Allez, la Coupe du Monde à vivre sur RMC Radio, officielle de la Coupe du Monde de la FIFA. Vous le savez, dès maintenant, vous retrouvez sur l'application toute une série de podcasts qui vont s'afficher dans les semaines à venir, et notamment celui-ci pour découvrir chacune des 48 équipes du Mondial. Un podcast par équipe, vous allez arriver, vous serez prêt sur cette Coupe du Monde. 7h03 sur RMC. Dans le reste de l'actualité, ce drame, cet adolescent de 15 ans tué dans une fusillade hier soir à Nantes.
Dans le quartier Port-Boyer, au nord de la ville, où deux autres jeunes sont blessés, dont un garçon de 13 ans. Entre la vie et la mort, le ministre de l'Intérieur attendu sur place ce matin. Lucas Laubert, vous êtes en direct avec nous. Lucas, ça s'est passé donc hier soir dans un immeuble de ce quartier populaire.
Oui, il est environ 19h30 hier soir lorsque des tirs retentissent dans le hall. Un adolescent est abattu, deux autres jeunes sont blessés. Les tireurs poursuivent l'un de ces deux autres garçons jusqu'au 13e étage où il s'était réfugié dans un appartement avant de prendre la fuite. Selon le procureur de Nantes, il pourrait s'agir d'un règlement de compte sur fond de narcotrafic. Ce que conteste Paola, la tante de l'adolescent décédé, un jeune juste au mauvais endroit, au mauvais moment, selon elle.
J'étais juste assis, en train de parler, de rigoler, et puis il y a quelqu'un qui est arrivé, et voilà. C'est la consternation, on est sous le choc de tel drame, en fait, on en a marre, on ne veut plus, on vit dans la peur.
Fin avril, déjà dans le même quartier, une autre fusillade avait fait un mort et un blessé grave. La mobilisation doit être totale face au narcotrafic qui gangrène le pays, a réagi la maire de Nantes, Johanna Roland, hier soir. C'est la 26e fusillade en à peine 5 mois dans la métropole, se désole-t-elle.
Les précisions de Lucas Laubert pour RMC.
Ça vous interpelle peut-être, ça vous fait réagir, que vous soyez à Nantes ou ailleurs, ces drames liés au narcotrafic et des gamins, faut quand même comprendre de quoi on parle, de 13 ans et de 15 ans, celui qui a été tué. Ça vous fait réagir, vous intervenez au 32-16 ce matin.
1500 teufeurs rassemblés en Lozère, selon le préfet, pour tenter d'installer une rave party dans le nord du département, à Saint-Privat-du-Faux. Ils se sont heurtés hier aux gendarmes et à des agriculteurs qui bloquent les accès au site. La préfecture insiste sur la dangerosité des conditions météo, de la neige, du vent et des températures négatives.
Son meurtre avait considérablement choqué la commune de Fère-en-Tardenois dans l'Aisne.
C'est là que se dérouleront les obsèques de Chloé. En début d'après-midi, cette adolescente de 14 ans poignardée la semaine dernière. Le principal suspect, son ex-petite amie de 23 ans, mise en examen depuis pour assassinat et pour viol. Il est en détention provisoire. Marion Degas s'est rendue sur place pour RMC à la rencontre d'habitants qui veulent être présents aux obsèques.
Oui, c'est le cas d'Amandine. Elle va venir à la cérémonie avec sa fille qui connaissait Chloé. Elle la considérait même comme une bonne amie.
On vient avec une plaque. Elle est petite et elle est grise, marquée pour mon amie.
Et en tant que mère, elle ne peut s'empêcher de penser aux parents.
Je déposerai une lettre de soutien pour la maman et pour rendre hommage à Chloé. On est tous parents, quoi. On sait très bien que c'est difficile pour la maman.
Dans le quartier où résidait l'adolescente, des bouquets ont été déposés près du chemin qu'elle empruntait pour se rendre au collège. Marie la croisait quotidiennement.
Ça fait mal au cœur quand je la vois plus sur le trottoir et que je vois sa copine toute seule qui est plus avec elle.
Les larmes aux yeux, elle se remémore les traits de la jeune femme.
Elle rigolait tout le temps avec ses amis. Elle bougeait beaucoup. Moi, je la croisais tout le temps en passant pour emmener mon fils. Une fille joyeuse, hyper active, qui aimait bien la vie et qui méritait pas ça, quoi.
À l'issue de la cérémonie à l'église, des membres du club de tir à l'arc de Chloé lui rendront un hommage. Ça va être difficile de contenir ses émotions, souffle une passante.
Les dernières discussions aujourd'hui en Chine entre Donald Trump et Xi Jinping. Le président américain repartira, dit-il, avec des paroles encourageantes sur la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump revendique aussi avoir conclu, je cite, des accords commerciaux fantastiques. De la neige en plein mois de mai, des flocons attendus à partir de 1200 mètres d'altitude aujourd'hui et partout ailleurs. Il ne fait pas tellement plus chaud, pas plus de 17 degrés attendus aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait le plan de l'ascension auquel s'attendaient ces touristes rencontrés à Saint-Malo par Martin Lange.
Le mercure qui dépasse difficilement les 11 degrés, des rafales de vent. Venue d'Angers en famille, Alexia l'avoue, elle aurait préféré une météo plus clémente.
On s'attendait à avoir du vent, peut-être pas autant. On avait prévu le coupe-vent pour l'enfant, mais pas pour nous, en pensant qu'il n'allait pas faire aussi froid.
Pourtant, les plus téméraires bravent les éléments à l'image d'Adeline et ses enfants. Ils arrivent de Saint-Étienne.
Il y a un peu de vent, mais bon, ça ne nous empêche pas de pique-niquer au bord de la mer, profiter de l'extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. On sera dehors.
Capuche sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, Charline et Olivier profitent des quelques rayons de soleil.
Finalement, on trouve qu'on a beaucoup de chance parce qu'ici, il pleut pas. Il y a un peu de soleil. Il fait peut-être un peu froid, mais le vent fait chasser les nuages.
Il permet aussi à Étienne de profiter de son cerf-volant avec quelques précautions.
On multiplie les couches, je dirais, pour garder un peu de chaleur, puis s'assurer que la casquette ne s'envole pas aussi. Ça, c'est important. C'est une petite difficulté parfois.
Sur la grande plage de Saint-Malo, les voiles multicolores se comptent par dizaines. Morgane sort tout juste d'une session de kitesurf.
C'est extraordinaire. Regardez, on est en combi et ça kite toute la journée.
Et elle est pas trop froide, l'eau ?
Non, pas du tout. J'ai même pas de gants ni de chaussons, donc faut en profiter.
Une eau à 13 degrés, 2 degrés plus chaud que la température extérieure.
Le reportage à Saint-Malo de notre correspondant.
Ouais, on s'y perd, hein. Il faisait un temps d'été en avril, un temps de mars en mai.
Et ça va revenir bientôt chaleur apparemment, dans quelques jours.
Vous vous engagez, Clara?
C'est pas oui, Anthony Kasmarek, je parle.
Il arrive, avant 7h30, c'est promis. Merci Clara Gabillet. On va accueillir Valentin au 32-16, Valentin qui nous appelle de la Vienne. Bonjour Valentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Supporter d'Angers, oui. Fan de foot. Vous étiez devant Dédé hier soir, Didier Deschamps?
Oui, bien sûr.
Bon. Vous êtes content, vous êtes confiant?
Oui, je suis content, je suis confiant. Pas beaucoup de surprises dans cette sélection, on va pas se mentir. Dédé a pris un effectif et des joueurs qu'il connaissait, à l'exception de Robin Risser. Mm-hmm. Pas une grosse surprise. Je pense notamment qu'on a le meilleur potentiel offensif, toutes sélections confondues.
On Donc, a le meilleur ouais, cette attaque de feu qui va faire peur, un peu plus léger sur le milieu.
Peut-être un petit peu plus léger sur le milieu, encore que, je pense que Tchouaméni est peut-être le meilleur joueur du Real Madrid cette année. Moi, j'attends beaucoup, notamment, c'est de Manu Koné. Je pense que ça peut être une vraie révélation, une vraie surprise.
En tout cas, vous êtes content, Valentin, vous êtes enthousiaste, là. On est à moins d'un mois de la Coupe du Monde. Vous avez entendu le sélectionneur présenter sa dernière liste et vous vous êtes dit, ouais, j'y crois, ces bleus-là.
Oui, bien sûr, ouais. j'y crois. Et puis ensuite, on connaît aussi l'effet Didier Deschamps et l'époque Coupe du Monde. Hein. Faut quand même rappeler qu'on est sur deux finales de suite au niveau de la Coupe du Monde. Donc oui, je suis très confiant. Et puis la révélation, je pense aussi au milieu de terrain, ça peut être Warren Zaïre-Emery, qui est sur une super saison avec le PSG cette année.
Qui peut jouer a priori à tous les postes. En plus, on l'a vu cette année. Merci Valentin. Merci de votre appel. Tiens, comme Valentin. Comment ?
Je suis désolé Mathieu, vous m'avez déjà eu au téléphone, mais je vais quand même le redire parce que je suis envoyé par Julien Cazard et JC Drouet pour faire le tour de toutes les émissions des RMC.
Je vois. Je vois, c'est vous qui alliez à pied au boulot quand les carburants ont commencé à devenir chers, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Je vois, ça me revient.
Je vais faire le pèlerinage entre Angers et Lourdes à pied, puisque Angers s'est officiellement maintenu. Donc je vais faire Angers-Lourdes à pied.
Eh ben, vous saluerez Julien Cazard de ma part. On a un petit problème d'horaire, de rythme de vie. J'ai croisé JC hier au boulot, mais c'est assez rare qu'on se croise. Vous les embrasserez pour nous les nuits du Cazard enchaîné. C'est évidemment tous les soirs, toutes les nuits sur RMC. Et je vois qu'on a des auditeurs qui sont fidèles à RMC, hein, du morning. Parce que Valentin, on l'a déjà eu à 5h15 du matin jusqu'à passer minuit. Bravo Valentin. Et j'espère que vous nous porterez chance aussi pour cette Coupe du Monde. Bonne marche, hein, entre merci Angers beaucoup. Et Lourdes. Il y a une petite trotte. Il est 7h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Bonbons, tisane, cookies au CBD, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, on ne peut plus vendre de produits alimentaires avec cette molécule dérivée du cannabis, issue du cannabis. La France, comme d'habitude, qui applique mieux les règles européennes que ses voisins. Ça vous fait réagir, vous consommez peut-être du CBD à fumer, à manger, vous en vendez peut-être des tisanes. Appelez-nous au 3216 ce matin, cette interdiction est une aberration. C'est ce que dit Paul McLean, président de l'Union des professionnels du CBD. Rendez-vous dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h14, vous êtes sur RMC et RMC Story. À partir d'aujourd'hui, tous les produits alimentaires à base de CBD sont interdits à la vente. Le CBD, molécule issue du cannabis, mais sans son principe actif stupéfiant, le THC. Il se fume, mais il peut aussi se manger. Et c'est fini pour les bonbons, les tisanes, les gâteaux. Bonjour Paul McLean.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Union des professionnels du CBD. Cette interdiction est une aberration, c'est votre parti pris. Pourtant, ce n'est qu'une application de la loi. Pourquoi c'est interdit?
Alors, c'est une réglementation européenne, mais il faut savoir que la réglementation européenne ne s'impose pas d'elle-même. Elle prévoit elle-même dans son article 15 la possibilité d'y déroger. C'est ce que font beaucoup d'autres pays de l'Union européenne et c'est ce que faisait la France jusqu'à il y a 3 semaines. Mmh.
En fait, on attend une autorisation de l'EFSA, qui est l'Agence européenne de sécurité des aliments, et c'est ça qui bloque. En fait, ce que vous reprochez aux autorités françaises, c'est d'appliquer un règlement, le règlement plus strictement que nos voisins européens.
Oui, tout à fait, oui, parce que les produits seront toujours sur le marché, hein. Il sera tout à fait possible, comme vous le savez, d'aller sur un site internet et de les commander. C'est juste les entrepreneurs français qui ne pourront plus vendre. On pourra toujours avoir des huiles, mais on ne pourra plus avoir d'huile française.
Alors, sauf qu'en réalité, ce que l'on comprend avec cette autorisation qui tarde à arriver, et si on prend les choses dans l'ordre, Paul McLean, c'est que vous êtes mis à vendre les produits avant d'avoir l'autorisation de le faire.
Alors, techniquement, on s'est mis à vendre les produits avant qu'ils ne soient considérés comme des novel foods, puisque c'est une réglementation qui date de 1997, et la Commission n'a décidé de les classer comme novel foods qu'à partir de 2019, alors que ces produits étaient déjà présents sur le territoire.
Alors concrètement, on va revenir sur le terrain et sur le terrain de vos boutiques en l'occurrence. Comment ça se passe pour vous dans votre boutique? Vous avez vidé les étagères ce matin?
Alors moi je n'ai pas de boutique, hein, je représente le.
Et vous n'avez pas de boutique vous-même?
Non.
Vous les représentez juste, d'accord. Et dans les étals aujourd'hui, ils ont tous vidé leurs étagères?
Alors,
on
vendra
plus de produits alimentaires?
Chacun prend ses propres, enfin fait ses décisions lui-même. Mais ce n'est pas vraiment une interdiction, hein, c'est un plan de contrôle de la DGAL, donc c'est la DGAL qui va venir dans les boutiques pendant
la
l'année 2026.
Direction générale de l'alimentation, oui. Oui, ça c'est pour les contrôles, mais il vaut mieux pas qu'il y ait de cookies ou de bonbons, puisque désormais on n'a plus le droit normalement de les vendre. Alors ça représente quel manque à gagner pour ces boutiques?
On parle d'à peu près 40% du chiffre d'affaires actuellement.
40%?
Oui, tout à fait, oui.
40% du chiffre d'affaires, pas de ce qui est vendu, mais du chiffre d'affaires des boutiques de CBD, ce sont des produits alimentaires, des bonbons, des gâteaux, des tisanes.
Exactement, c'est d'ailleurs le secteur qui connaît la plus forte croissance, hein, ces dernières années. On est sur une croissance juste de ce secteur de à peu près 30%, parce que bah, clairement l'avenir, hein, de ces produits qui est censé être un produit bien-être n'est pas la voie fumée, hein, ou autre, c'est bien la voie alimentaire.
Ben oui, précisément, pardonnez-moi, on a tendance à penser que c'est surtout pour le fumer que les gens l'achètent. Et par ailleurs, ça paraît même aussi un peu saugrenu de se dire qu'on autorise le produit à fumer, on sait que c'est nocif parce qu'il y a une combustion, etc. Et pas l'alimentaire. Après, je suis pas médecin et c'est pas moi qui m'engagerai sur ce terrain-là. Mais on a Eric qui est en ligne avec nous dans l'Ain. Bonjour Eric.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu sur RMC et RMC Story. Alors vous, c'est une question presque, enfin pas presque, complètement médicale. Vous avez eu recours au cannabis d'abord, si je lis bien votre fiche,
c'est ça,
pour des raisons thérapeutiques,
de
mais aujourd'hui vous êtes client de CBD.
Oui, exactement.
parce que ce que je recherche, c'est pas le côté défonce, c'est le côté détente et antidouleur. Faut savoir que la cigarette CBD, elle est pas autorisée comme on l'entend. C'est-à-dire que normalement, vous achetez votre paquet, il est censé rester fermé jusque chez vous. Vous pouvez pas le consommer n'importe où et en plus, c'est pas discret. Il y a une odeur qui est très très forte.
Et vous l'achetez en illiquide ?
Moi, je l'achète en gummies.
En gummies, en bonbons. Ah ouais. Oui, donc ça, vous le trouverez plus aujourd'hui.
Ah ben voilà. Donc qu'est-ce que je fais du coup ? Parce que les antidouleurs de pharmacie, ben, ils m'empêchent d'aller uriner correctement. En fait, ils sont très nocifs pour les reins. Donc,
Ça marche, Eric? Parce que, pardonnez-moi, on a quand même aussi petites études qu'on détaillait ce matin. Il n'y a pas d'effet avéré thérapeutique sur le côté antidouleur. Vous dites que vous y trouvez votre compte, Eric.
Pour moi, ça marche, mais je pense que comme je suis très tendu, ça me permet de me détendre.
Ouais. Merci, Eric, de votre témoignage. On est exactement dans le sujet, concrètement, puisque Eric était consommateur de gummies, c'est les bonbons gélatines au CBD. Merci Paul McLean, c'est figé pour l'instant ?
C'est-à-dire ?
Ça bougera pas. Vous avez des réponses du gouvernement ?
Écoutez, nous on essaie toujours d'engager la voie diplomatique. Pour le moment, on n'a pas de réponse, on n'a pas d'avancée concrète. Donc on est encore dans l'attente.
Alors on suit, et peut-être que vous avez une boutique aussi, parce que j'ai appelé les consommateurs à nous appeler, peut-être que vous avez une boutique et que vous vendez du CBD, ces produits, qu'ils soient à fumer ou à produits alimentaires. Vous témoignez ce matin au 32-16. Merci Paul McLean, président de l'Union des professionnels du CBD. Il est 7h19 sur RMC. Et dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
L'historien d'Apolline Matin. Et Arthur, on va se replonger dans la Beatlemania. Le musée des Beatles doit ouvrir à Londres l'an prochain. Le succès s'annonce démentiel.
Bah, et pour cause, Mathieu, hein, John Lennon clamait haut et fort que les Beatles étaient plus populaires que le Christ. Et bah, c'est le moment de le vérifier.
Et puis à 8h30, dans le face-à-face, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, qui répond aux questions de Marie Chantret. Arnaud Demange pirate l'interview en direct, juste après, il y aura la semaine face à Canteloup à 8h50. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes exactement.
RMC. Apolline Matin.
Oui, parce qu'ils étaient fans de Rome.
Allez, c'est parti, 7h21, on va écouter un peu de bonne musique ce matin avec l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Arthur.
On l'a appris cette semaine, un musée consacré aux Beatles va ouvrir à Londres. L'inauguration est prévue pour 2027.
Oui, et ça s'appellera The Beatles at 3 Savile Row. Alors pourquoi ce nom ? Eh bien parce que Savile Row, c'est la rue de Londres où les Beatles ont donné leur tout dernier concert. C'était sur le toit d'un immeuble en 1969. Cet immeuble, c'est aussi là où ils ont enregistré un de leurs plus grands tubes.
Pourtant, l'histoire des Beatles n'a pas commencé à Londres.
Eh bien non, tout a débuté à Liverpool, une ville ouvrière du nord-ouest de l'Angleterre. C'est là-bas qu'à la fin des années 1950, deux adolescents d'un milieu modeste se rencontrent. Ces ados, c'est John Lennon et Paul McCartney. Un coup de foudre musical qui va devenir une success story. Ils sont rejoints par un guitariste, George Harrison. Et en 1960, ils créent un groupe, les Beatles. En anglais, les Beatles, ça veut dire scarabée. Deux ans plus tard, Ringo Starr, un nouveau batteur, rallie l'aventure.
Le succès va arriver très vite.
Oh oui, très vite. En 1963, ils sortent leur premier album. Ça s'appelait Please Please Me, avec plusieurs tubes, dont celui-ci. Love, love me do. L'album est numéro 1 en Angleterre pendant 7 mois. C'est le début de ce qu'on appelle la Beatlesmania. Chaque apparition publique du groupe provoquait des attroupements délirants. Le phénomène va traverser les frontières. En 1964, Mathieu, le groupe se produit au Ed Sullivan Show, l'émission star de la télé américaine, devant un public hystérique. Ils sont réunis 73 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire plus d'audience que pour la finale du Super Bowl. C'est un des records de la télé américaine.
Alors, les Beatles, c'est aussi des polémiques à la mesure de leur succès.
Et surtout une, Mathieu. En 1966, John Lennon se lâche un peu et déclare que les Beatles sont plus populaires que Jésus-Christ. Ça provoque un scandale mondial. La phrase est prise pour un blasphème dans les pays très religieux. Et par exemple, au Mexique ou en Afrique du Sud, les chansons des Beatles sont même temporairement interdites à la radio.
On a brûlé des vinyles au Texas.
Brûlé des vinyles, absolument.
Les membres du groupe font même leur entrée dans un célèbre dessin animé.
Et oui, c'est peu connu, dans un chef-d'œuvre de Walt Disney, Le Livre de la Jungle. Dans ce film de 1967, on voit quatre vautours avec des coupes de cheveux qui ressemblent à celles des Beatles. Et c'est normal, puisqu'ils sont directement inspirés par eux. Disney voulait aussi que les Beatles prêtent leur voix pour le doublage, ce qu'ils ont finalement refusé.
Et puis alors, incroyable, mais les Beatles ont aussi voulu adapter Le Seigneur des Anneaux en film.
Ah oui, alors ça c'est une histoire de fou, parce qu'en fait les Beatles étaient fans du roman Le Seigneur des Anneaux, donc ils avaient même commencé à travailler sur un scénario, ils s'étaient même distribué les rôles principaux du livre. Ils sont allés jusqu'à proposer à Stanley Kubrick d'être le réalisateur. Et finalement, c'est Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui a refusé l'adaptation.
Ah bon ?
Absolument, il a refusé. Je crois que c'est le seul échec de la carrière des Beatles, hein, puisque le groupe se sépare en 1970 après 12 albums mythiques qui se sont à ce jour vendus à plus de 600 millions d'exemplaires.
Et Arthur Chevalier m'a fait mourir de rire en préparant cette émission. J'ai appris que John Lennon devait jouer Gollum.
Et George Harrison, Gandalf.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On y est. Merci beaucoup, Arthur
Merci
Chevalier. L'historien d'Apolline Matin, votre chronique à retrouver en podcast et sur le site et l'application RMC, bien entendu. Il est 7h25.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud Demanche. Comment ça va Arnaud?
Et tous les amis.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est Jean-Philippe Tanguy, député
ouais,
RN de la Somme.
Rien à voir avec Gollum. On est à 7 semaines du 7 juillet. C'est le jour du verdict dans le procès de Marine Le Pen dans 7 semaines, dites donc. Une journée qui restera dans l'histoire de l'extrême droite, le jour de l'abdication de la Marie-Antoinette de la droite radicale, décapitée par son ascension, pendant son ascension, pardon. Oui, c'est Stéphane
c'est
Bern.
C'est secret d'histoire.
Non, mais c'est secret d'histoire. Voilà. Donc, sur le jour où Marine, suivant ainsi les traces de son idole Jeanne d'Arc, sera cramée avant de pouvoir diriger le pays. Et c'est le dauphin, Jordan Ier des deux Siciles, des trois Sardaignes et des quatre fromages, qui récupérera le trône. Jordan Bardella se rapproche d'une candidature à la présidentielle. Ceci dit, je trouve qu'il fatigue en ce moment Jordan. L'autre jour, en interview, il a dit ça.
Non, trèfle de plaisanterie, mais si Jean-Luc Mélenchon devient président de la République, je finirai soit au goulag.
Alors, je passe sur l'exagération, c'est le trèfle de plaisanterie où je me suis dit, oula, un peu de repos lui ferait du bien parce que là, il se voit candidat, mais avec ce genre de bourde, vaut mieux pas vendre la peau de l'oursin tout de suite. Quoi. Alors, bien sûr, l'occasion fait le lardon, mais vaut mieux pas mettre la charia avant l'hébreu quand même. Alors, chez LFI, ils se sont un peu moqués alors que eux, ils ont de l'ogu. Hein. C'est un peu l'orignal qui se fout de la charcuterie. Allez, on passe du coca light.
On peut faire la matinée entière.
Ouais, on peut en faire plein. On peut en faire plein. Allez, on passe du Coca Light. En ce moment, le RN est en guerre avec Kylian Mbappé. Ouais. Le capitaine de l'équipe de France a mis en garde contre les conséquences d'une victoire électorale de l'extrême droite en 2027 dans un entretien à Vanity Fair. Ce à quoi Jordan Bardella a répondu. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions. Nananer. Alors, le nananer, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que j'ai trouvé ça vraiment gamin comme réplique. Attention, hein, Jordan. Au débat du second tour, on pourra pas la jouer comme ça. Monsieur Bardella, vous ne proposez rien de concret pour le quotidien des Français. C'est celui qui dit qui est. Non, alors ça, c'est pas un argument. Et voilà, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Non, je suis désolé, monsieur le boulot, mais le débat... Oh, le gros rapporteur! T'es un bébé cadome! Monsieur Bardella, vraiment, vous n'êtes pas au niveau. Miroir, miroir, tout ce que tu dis revient sur toi. Monsieur Boulot. Ah non, vous n'allez pas aller sur ce terrain. Ah non, vous n'allez pas aller sur ce terrain. Vous n'allez pas répéter tout ce que je dis. Ah, tu vas pas répéter tout ce que je dis. Allez, un peu de repos, Jordan, quand même. On s'élève. On voit tout ça avec Jean-Philippe Tanguy à 8h30. Et à tout à l'heure.
Moi, je pense à tous ceux qui sont en voiture avec leurs enfants et qui vont commencer à jouer à ça, les gamins derrière.
Ah, les gamins.
Toute la matinée.
Répéter,
vous direz merci Arnaud Demange. Qu'on retrouve tout à l'heure à 8h15, à tout moment en podcast. Vous restez bien avec nous dans un instant, le journal. Et la météo d'Anthony Cazemin qui s'est déjà installé. Il est 7h28.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La famille reste sacrée pour les Français, mais la réalité économique rattrape de plus en plus de parents. Constat du baromètre de l'Union Nationale des Associations Familiales que l'on vous révèle ce matin sur RMC. On connaît les 26 bleus qui partiront à la conquête de la troisième étoile. Didier Deschamps a dévoilé hier sa liste. Et un été incertain pour le secteur des croisières. Les incidents sanitaires inquiètent les voyageurs.
Être parent en 2026 coûte de plus en plus cher.
Et ça commence à se voir dans le quotidien des familles. Un tiers des parents ne peut plus faire plaisir à ses enfants. Un chiffre en hausse de 7 points par rapport à 2024. Certains peinent même à répondre à leurs besoins essentiels. Un constat alarmant du baromètre de l'Union nationale des associations familiales que l'on vous révèle ce matin sur RMC. Justement, Pierre Bourgès, vous avez pu rencontrer certains de ses parents près de Bordeaux.
Maryse sort du centre commercial avec ses trois filles et son mari, mais attention, il n'était pas question de faire des achats superflus.
Les plaisirs, c'est calculer, c'est compter, même pour les enfants.
Quand il faut faire plaisir aux enfants, désormais, la mère de famille pense d'abord utile.
Je veux, jouer Pas de Patrouille. Et bien, nous, par exemple, on va plus choisir un vélo Pas de Patrouille qui est plus utile qu'un jouet Pas de Patrouille.
Le couple s'inquiète également pour l'avenir de ses enfants. Selon le baromètre, plus de la moitié des parents ne pensent pas pouvoir le financer. C'est aussi l'inquiétude de Gaël.
On peut pas s'ouvrir tous les horizons sur n'importe quelle école, n'importe quels endroits. Si nos deux enfants disent on veut aller chacun étudier dans une ville différente, ça va être compliqué.
Même constat pour Stéphanie qui pense déjà aux études supérieures pour sa fille de 16 ans.
Sur 3 ans d'études, on devait budgétiser 15 000 euros. Aujourd'hui, on n'est plus en capacité de le faire.
Si je vous avais posé la question il y a un an ou deux, est-ce que la réponse aurait été la même ?
Non, je ne pense pas parce que tout a augmenté. En fait, au niveau du carburant, les charges, tout ça, ça a augmenté. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait de mal ? On a l'impression de ne pas les protéger.
Sa fille se prépare donc déjà à chercher une alternance pour que l'école puisse financer ses études.
Les familles qui décrochent, vous allez témoigner au 32-16, ça coûte de plus en plus cher d'être à la hauteur aussi. Quand je lis les résultats de l'étude, 13% n'arrivent pas à répondre aux besoins essentiels de leurs enfants, 53% n'arrivent pas à préparer leur avenir, un tiers ne peut plus se permettre de faire plaisir à ses enfants. Vous vous reconnaissez dans cette étude, vous témoignez ce matin au 32-16, n'hésitez pas, il est 7h33 sur RMC.
Et on connaît les 26 bleus pour conquérir le mondial. Il ne reste plus que 11 rescapés de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Les frères Hernandez, Mbappé ou encore Dembélé. Des petites surprises, le gardien Lançois Risser ou encore Mateta, Maxence Lacroix et des absents, Kamavinga, Chevalier, Kolo Muani. Alors qu'en pensent les supporters ? Victor Girard, vous avez suivi l'annonce de la liste à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, avec des jeunes footballeurs.
Dans leur clubhouse, pendant l'annonce de la liste, pas de doute chez ces jeunes footballeurs.
Elle est impeccable. Hein.
Didier Deschamps a fait les bons choix.
Il n'y a qu'un point faible. Défense, on est solide. On a des bons goals, Matmignon, milieu terrain, Rabiot, Tchouaméni, impeccable.
Sous l'attaque, qui fait vraiment rêver avec beaucoup de joueurs très performants. Mbélé, Ryan Cherki, Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué. Ils font des très grandes performances en Ligue des Champions ou encore dans leurs ligues respectives. Ça a vraiment nous aidé à aller très loin dans cette campagne.
On peut ou on va la gagner, la Coupe du Monde ?
C'est la dernière Coupe du Monde de Didier Deschamps. Il va tout donner. Il a obligé de finir en beauté.
Comment on va la gagner la Coupe du Monde ?
Il faut quand même rester sur nos gardes parce qu'il y a des très bonnes compositions, que ce soit le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Ce sont les grands favoris. Penser des propos un peu trop confiants.
Et comment vous vous sentez à un mois de la Coupe du Monde ?
Franchement, j'ai trop hâte. La Coupe du Monde, ça arrive tous les 4 ans. C'est la compétition la plus attendue dans le foot. Même les petites équipes, on va les regarder.
On va aller au clubhouse, on va se rejoindre pour regarder les matchs de la France.
Moi, c'est pour que la France vive la France.
Et un bleu est en zone de turbulence, c'est Kylian Mbappé au Real Madrid. Une entrée en jeu hier sous la bronca des supporters lors de la rencontre contre Oviedo. L'attaquant français a publiquement mis en cause son entraîneur Arbeloa. À la fin de la rencontre, il affirme avoir été relégué au rang de quatrième attaquant de l'équipe alors qu'il était à 100% et prêt à jouer dès la première minute. Des propos immédiatement démentis par son coach. Le mondial, lui, débutera le 11 juin prochain. À suivre sur RMC, l'antenne sera 100% Coupe du Monde de 18h à 5h du matin.
Vous allez réagir au 32-16 ce matin. Je suis surpris par les sifflets sur Kylian Mbappé, bien entendu. Mais nous, on est sur la liste des 26 de Didier Deschamps. Est-ce que vous y croyez, cette équipe de France ? Est-ce qu'elle vous plaît ? On va appeler Lionel Charbonnier. Il a connu, lui, ce moment-là, en 98, ce moment où son nom est prononcé par le sélectionneur. Il va nous raconter quelques-uns de ses souvenirs. Et puis surtout, on va analyser les 26 qui vont aller chercher une troisième étoile. 7h35.
Nantes, secouée par une nouvelle fusillade, la 26e depuis le début de l'année. Un adolescent a perdu la vie hier soir dans le quartier du Port-Boyer. Deux autres blessés, dont un grièvement, un adolescent de 13 ans. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est attendu sur place ce matin. Les habitants, eux, sont sous le choc.
De nouvelles accusations qui visent Patrick Bruel.
Deux femmes ont déposé plainte mardi pour agression sexuelle et tentative de viol. Elles seraient, selon Mediapart, une vingtaine à dénoncer ces violences. Lui, ni les faits. Et Constance Bostoen, du service police-justice d'RMC, ce n'est pas la première fois que ces deux femmes accusent Patrick Bruel.
Oui, l'une des plaignantes dénonce une agression sexuelle dans une cabine de massage en juillet 2019 à Perpignan. L'autre accuse Patrick Bruel d'une tentative de viol en 2010 à son domicile lors d'un rendez-vous professionnel. Ces deux femmes avaient déjà déposé plainte il y a quelques années, mais la procédure avait été classée sans suite, comme le rappelle Christophe Ingrin, l'avocat du chanteur au micro de BFM TV.
Patrick Bruel se défendra, comme il s'est défendu déjà à l'occasion des deux enquêtes qui ont précédé ces plaintes avec constitution partie civile, qui ne sont que redites, des plaintes qui avaient déjà été l'objet d'enquête. Si un juge d'instruction est désigné, bien, très bien.
La saisine d'un juge d'instruction, c'est justement ce qu'espèrent les deux plaignantes, confortées, selon leur avocate, par le récit d'autres victimes dans la presse ces dernières semaines. En plus de ces nouvelles plaintes, Patrick Bruel est actuellement visé par trois autres procédures, dont deux en France et une en Belgique.
RMC 7h37 à 90 jours des vacances d'été. Les croisiéristes naviguent en eau agitée entre incidents sanitaires à bord. Antivirus qui a provoqué la mort de trois passagers, des épidémies de gastro-entérite, des escales perturbées. Le secteur enchaîne donc des mauvaises nouvelles. Après une année 2025 record, Antonin Audion, l'industrie redoute désormais une crise de confiance auprès des voyageurs.
Depuis 25 ans, Roselyne et son mari enchaînent les croisières, l'Europe du Nord, les Antilles, la Méditerranée. Mais pour leur prochain voyage, ils sont méfiants.
Comme ça arrivait sur certains bateaux, on y pense. Pour l'instant, bon, on s'affole pas. On attend de voir ce qui va se passer. S'il y avait beaucoup de cas, beaucoup de problèmes de ce genre sur d'autres bateaux, on n'irait peut-être pas.
Ils sont nombreux dans cette situation, ce qui pourrait toucher directement les croisiéristes, comme l'explique Arnaud Aimé, spécialiste des transports.
L'impact sur la demande de la crainte du nouveau virus, de l'antivirus, dont on commence à sentir que ça peut avoir une influence sur la demande sur certains types de croisières, notamment les itinéraires dits d'expédition.
Des difficultés qui s'ajoutent au prix des carburants. Ils plombent les armateurs depuis le début de l'année. Rosemarie Faroudia dirige le cercle des voyageurs.
Les clients attendre. Il y a un attentisme très fort au voyage. Les clients ont parfois peur d'être coincés à destination, ont peur des hausses de carburant.
Pour continuer d'attirer de nouveaux clients, les armateurs multiplient les offres et les promotions.
Les courses RMC, le quintet qui se déroule sur l'hippodrome à Vincennes, c'est à 20h15.
Le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori le 14, son outsider et le 8, Cameron.
Merci beaucoup Clément, c'était le journal. Il est 7h38, on va accueillir Patrick qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous avez écouté RMC ce matin et je crois que vous êtes consommateur de CBD. Les produits alimentaires à base de CBD, les bonbons, les cookies, les tisanes sont désormais interdits à la vente. Patrick, vous en consommiez ?
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, des gummies.
Des bonbons.
Oui, voilà, mais aussi, et là c'est plus, j'ai commencé en le fumant en fait. Parce que j'étais quelqu'un qui a, depuis tout jeune, on m'a mis des traitements pour dormir. Alors, des somnifères, Zopiclone, Atarax, ainsi de suite. Et en fait, j'ai voulu arrêter. Et pour arrêter, j'ai pris du CBD. Et j'ai pu arrêter tous ces traitements qui étaient...
Ça vous aidait à dormir?
Ah oui, ça a remplacé.
Je le redirai à chaque fois qu'un auditeur nous défend les vertus thérapeutiques, que pour l'instant, elles ne sont pas démontrées scientifiquement, qu'il n'y a pas plus d'effet qu'un effet placebo, etc. Mais vous, Patrick, ce que vous nous dites ce matin, c'est que vous, c'est l'usage que vous en aviez pour vous aider à dormir le soir sous forme de bonbons.
Et j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont arrêté aussi le cannabis grâce au CBD. Donc, je veux dire, quand on veut lutter un peu contre la drogue, tout ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait aider, plutôt que...
Non mais il y a un dysfonctionnement, il y a un retard qui est pris par l'agence de sécurité des aliments européenne pour délivrer une autorisation et la France a décidé d'appliquer la règle à la lettre, ce que ne font pas forcément d'autres pays voisins. Mais on parle aussi d'autres pays voisins qui ont légalisé le cannabis tout court, donc peut-être que, bon, Patrick, vous allez faire comment ?
Je préférerais plutôt que justement on aille vers ces valoriser, peut-être que c'est pas la panacée hein, le CBD, mais quand même, ça peut. J'aurais un enfant qui me dirait, je préférerais le voir reprendre du CBD que d'aller dans un quartier voir des gens qu'il ne connaît pas. J'achèterais sur Internet. Que voulez-vous ? Je n'irai plus chez ma boutique locale.
Donc, donc y compris dans l'illégalité aussi. Du coup, mais Patrick, merci de votre témoignage ce matin au 32-16. On va continuer d'en parler. Vous le consommez le CBD. Je sais qu'il y a aussi des pharmaciens qui en vendent. Vous êtes pharmacien. Appelez-nous au 32-16. Vous avez une boutique de CBD. On en parle ce matin comme Patrick l'a fait au 32-16. Merci Patrick, 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous à l'écoute d'RMC, il est 7h44. Le compte à rebours avant le 11 juin, la Coupe du Monde de foot de la FIFA, RMC Radio officielle. Vous aurez 100% des matchs, une antenne, 100% Coupe du Monde de 18h à 5h du matin. Et dès maintenant sur l'application RMC, des podcasts qui vous présentent les 48 équipes du Mondial. Surtout avec nous, la Dream Team RMC qui compte 4 champions du monde quand même. Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et bonjour Lionel Charbonnier.
Salut Mathieu, salut la team, salut à tous nos auditeurs.
Champion du monde 98, c'est un moment clé hein, que l'annonce de la liste du sélectionneur. Et parmi les surprises du chef hier soir, le choix de l'attaquant de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. On l'a eu au téléphone hier dans l'after, il l'a appris devant sa télé, écoutez.
Attaquant Jean-Philippe Mateta.
Je ne réalise pas encore, je l'ai appris comme tous les Français hein, devant la télé. Moi on m'a rien dit, j'ai voulu le voir comme tout le monde, j'ai regardé TF1 et...
Vous l'avez appris comment, vous, Lionel Charbonnier? On est comment quand on est joueur à moins d'un mois d'une Coupe du Monde et qu'on attend d'entendre son nom?
Ah bah moi, je l'ai appris, en fin de compte, au tout dernier moment, tout simplement parce que j'étais déjà... On était, vous saviez, à Clairefontaine, il y avait une liste élargie à l'époque. Oui. Et donc, il y avait quatre gardiens. Je crois qu'il y avait Lionel Letizy aussi qui était là, oui, dans le regroupement. Et le soir même, c'était le dernier jour. Et Aimé Jacquet nous dit, demain matin, les gars, je vous donnerai la liste et tout ça. Et puis, j'étais vraiment fatigué. J'avais tout donné pendant ce prestage de sélection. Et j'ai demandé au kiné, j'ai dit, tu pourras venir me masser, s'il te plaît, et tout. Mais je dis, mais fais les titulaires, les Zizou et compagnie avant. Et si te reste de la place, tu viendras. Il me dit, oui, pas de souci. Et donc, vers 1h du matin, ça toque à ma porte, tout en haut. J'étais vers le grenier, tu sais, je voulais toucher les étoiles déjà. Et puis, ça toque. Et puis, le kiné arrive. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde ma montre, 1h du matin. Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, mais non, mais va te coucher. J'ai dit, ça se trouve, demain, je serai plus là. Et puis il me dit non, il dit si je viens c'est parce que ça y est la liste elle est faite, ils sont tous partis, c'est toi qui restes pour le mondial. Je lui dis ah bon, et donc je l'ai appris à 1h du matin comme ça, je savais même pas. Donc là, j'ai appelé mon père tout de suite.
Troisième gardien des Bleus, vous l'étiez en 98, là c'est une des surprises, hein. Robin Risser, 21 ans, le gardien lensois, Lucas Chevalier n'est pas retenu. Robin Risser, Jean-Philippe Mateta, Maxence Lacroix, ça c'est la troisième surprise, le défenseur de Crystal Palace. Il y a les déçus bien sûr, cette liste elle est cohérente, elle vous a plu Lionel?
Ouais, elle est très cohérente. Il y a pas de surprise. Didier, de toute façon, avec Dédé, il y a rarement des surprises. Ou alors, ce sont des bonnes surprises. Donc, et là, ce sont aussi des bonnes surprises parce que Risser est un bon gardien. Il a fait un bon championnat. Pendant un moment, je me suis posé la question est-ce qu'il faut mettre Risser? Est-ce qu'il faut rappeler Dioris? Ce qui prouve un petit peu quand même la pénurie de nos gardiens de but en tout cas la formation en France. Et puis Risser s'est repris parce qu'il a eu un passage à vide et là il est beaucoup mieux. Didier le connaît, il connaît l'équipe de France, il a déjà fait des entraînements avec eux, donc ça me paraît tout à fait logique.
Lionel, ouais, pour terminer, vous avez un petit prono, est-ce qu'on s'y risque, est-ce qu'on est, on fait partie des favoris, mais on la gagne cette Coupe du Monde, on met une troisième étoile?
Si moi j'y crois pas, personne n'y croira, donc oui bien sûr on va y aller, on va aller au bout et puis pourquoi pas? Mais oui, c'est la dernière de Dédé. En tout cas, on sera tous derrière eux. Ça, c'est certain. En tout cas, moi, c'est certain.
Ça, c'est certain. Et les auditeurs le sont. Ce matin, vous réagissez au 32-16. Vous avez suivi cette liste de 26. Elle vous plaît ou pas? Tiens, on peut débattre aussi, bien sûr. On vous attend ce matin au 32-16. Merci, Lionel Charbonnier, champion du monde 98.
Salut, Mathieu. Salut à tous.
Membre de la Dream Team RMC Sport. On est mobilisés. J'ai pas dit, il y aura 40 envoyés spéciaux aux États-Unis, Canada, Mexique. Vous ne manquerez rien avec RMC. Il est 7h48.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h50 sur RMC et RMC Story. Faut-il priver les stars d'Hollywood de jets privés? Les stars d'Hollywood, et d'ailleurs devraient-elles venir à Cannes en avion de ligne, en classe éco même? C'est le débat RMC entre la voix de gauche, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Mathieu.
Et la voix de droite, Jérôme Lavrieux. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Question soulevée par des militants écologistes qui dénoncent dans une pétition le balai de jets privés sur la Croisette pendant le festival. Je cite, le fait que les personnalités riches et célèbres brûlent du carburant devenu rare pour se rendre à un festival de ciné n'est pas seulement une preuve d'aveuglement, c'est obscène. Voilà ce que déclare l'un des signataires de la pétition, ex-pilote d'Air France, Jérôme Lavrieux. C'est obscène?
Non.
750 jets l'an dernier, je voyais les chiffres. C'est comme 14 000 passagers de Paris à Athènes.
Oui, d'accord. Et les passagers de Paris à Athènes, c'est comme des dizaines de milliers de voitures qui sont elles-mêmes comme des dizaines de milliers de motos. C'est pas obscène, ça existe. Ça fait tourner l'économie, notamment l'économie du sud de la France. Cannes, c'est ça. Cannes, c'est des vedettes. Cannes, c'est des gens qui ont de l'argent qui viennent et qui font travailler des dizaines de milliers de personnes. À titre personnel, est-ce que c'est obscène de payer 2000 ou 3000 euros ou 5000 euros pour une suite dans un hôtel? À titre personnel, je trouve ça obscène. Ça m'est jamais arrivé. Mais ça fait travailler aussi des dizaines de milliers de personnes. Et donc, c'est pareil pour les jets. Si nous, on le fait pas, ils iront au festival de Venise, ils iront au festival de Berlin, ils iront ailleurs et on n'aura pas diminué d'un gramme la pollution sur la planète.
Cécile, pour vous, il faut carrément les interdire, les jets privés ?
Moi, je pense que oui, il faut vraiment faire diminuer drastiquement l'usage des jets privés. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout la même chose de dormir dans une chambre d'hôtel à 2000 euros et à 122. Ça émet un peu plus de gaz à effet de serre, mais pas beaucoup plus finalement. Alors que voyager en jet par rapport à un avion de ligne, c'est en autour de 10 fois plus d'émissions. Et par rapport au train, là, c'est 50 fois plus. Et le problème, c'est que ces jets, ils font des fois des Nice Cannes. C'est pas possible, en fait. Ça n'a aucun sens. Et je vais utiliser les mots qui sont pas de moi, mais d'un utilisateur et même propriétaire de jet privé. Il s'appelle Stephen Prince, il est américain, il a fait fortune avec les cartes cadeaux, et il a dit, j'adore les vols privés, j'adore ça. Quiconque a déjà pris un jet n'a pas qui n'a pas aimé, n'est probablement pas humain. C'est un des trucs les plus grisants, privilégiés que la race humaine puisse expérimenter. C'est comme la cocaïne. La pire chose à faire, c'est commencer, parce qu'il suffit d'une fois pour devenir accro. Et donc, il est favorable. Il a vendu son propre jet en disant, si vous l'avez, vous pouvez pas faire autre chose que l'utiliser. Alors qu'en fait, voyager en avion de ligne, c'est pas dramatique. Donc, il y aura toujours le festival de Cannes, même s'il n'y a pas des masses de jets privés.
L'enjeu, il est industriel, Jérôme Labrie?
Ah, l'enjeu, il est économique. Il est aussi industriel. Nous sommes, je crois, le troisième producteur de jets privés dans le monde. Les entreprises Dassault, allez en parler aux milliers d'ouvriers qui travaillent du côté de Bordeaux pour construire des Falcon et toute la série. Il faut bien les vendre à quelqu'un. Il faut bien les utiliser. Et encore une fois, sur le fond, si tout le monde interdit les jets dans le monde entier, moi, ça me va, ça me pose pas de problème.
Ah bah, on progresse.
Non, j'ai toujours été comme ça. Mais faire des mesures franco-françaises, on va se tirer une balle dans le pied, on n'améliorera pas le sort de la planète du tout. Donc c'est pour ça que je trouve ça ridicule.
Mais il y a quand même
la France
le symbole, je vous disais.
À surtaxer l'achat de yachts. Tout le monde dit, super, les yachts, c'est pour deux mecs pleins aux as, un couple plein aux as, qui va barboter dans la Méditerranée, et ça ramène rien. Bah oui, on a fermé les chantiers navals français qui construisaient les yachts privés. Et ils sont construits où? En Allemagne, ils sont construits en Italie. Et on n'a pas fait rentrer de taxes en plus. Et on n'a pas fait baisser la pollution.
Il y a quand même une notion un peu symbolique dans ce débat, et je ne sais presque pas à qui poser la question du symbole, mais Cécile, allons-y. La question du symbole par rapport à la question de l'industrie, de l'emploi.
D'abord, la question de l'industrie, de l'emploi. Il n'y a plus d'emploi sur une planète morte, Jérôme. Il n'y a plus d'emploi. C'est-à-dire que le sujet de savoir est-ce qu'on change de modèle, ça veut dire qu'on va pouvoir produire autre chose, produire différemment. D'ailleurs, les petits avions de tourisme, qui ne sont pas des jets, ils consomment beaucoup moins, par exemple.
Et les jets
d'énergie.
Consomment beaucoup moins que les jets il y a 15 ans, et les Boeing consomment beaucoup de moins, et les Airbus aussi.
Aux passagers, c'est sans commune mesure. Et le problème, effectivement, vous avez raison Mathieu, c'est qu'il y a une question de symbole. C'est-à-dire que quand vous avez des riches qui ont beaucoup d'argent et qui dépensent des choses qui valent très cher, une suite à 10 000 euros à Cannes, en fait, ça ne prive pas quelqu'un et ça ne pollue pas davantage.
Dans l'absolu, ça prive de construire un immeuble de HLM à la place de l'hôtel.
Non, quand on parle de fortune privée. Quand on émet plus, qu'on pollue plus, c'est-à-dire qu'on s'achète un droit à rendre malade la planète et ses habitants, là c'est un problème. Et surtout, là où c'est pire, c'est qu'on est dans un moment où il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire le plein pour aller travailler. Et à qui on dit que c'est tout à fait sans problème que des gens polluent plus et utilisent du pétrole pour finalement rien de plus efficace que se déplacer dans un avion normal.
Et les gens qui travaillent à l'aéroport de Toulon, les gens qui travaillent à l'aérodrome de Saint-Tropez, ceux qui travaillent à Nice, quand il n'y aura plus d'aviation d'affaires, quand il n'y aura plus d'aviation privée,
mais que ça change
ils
l'économie.
Plus du tout d'argent pour payer leur
que
plein.
Ça change l'économie. Que ça change l'économie. On a eu ce débat autour de l'intelligence artificielle. Quand on fait évoluer la technologie, et là pour le coup, si on arrive à une société plus sobre en émissions de carbone, on va juste sauver notre peau de façon assez. Et donc les métiers vont évoluer, les activités vont évoluer. Il y aura plus de gens qui travailleront dans les gares.
Je peux partager ce point de vue, mais vous avez nos petits bras musclés à tous les deux. On ne l'interdirait qu'en France. On ne l'interdirait pas ailleurs. Et donc il y aura toujours des gens qui atterriront non pas à Nice. mais en Italie, et qui prendront leur hélicoptère pour aller jusque Monaco.
Jérôme, on a par exemple,
il n'y aura plus de salariés privés, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer.
On a évoqué un temps, au moment de la Convention citoyenne pour le climat, l'interdiction des vols domestiques, des Paris-Lyon, Paris-Marseille en avion, alors que ça peut se faire, quand ça peut se faire en train, etc.
Pour 2h30.
Ce serait inaudible pour les gens de restreindre les vols et de laisser ce balai de jets privés autour de la croisette. Non mais ça,
restreindre les vols pour les vols charter ou les vols les lignes directes entre quand il y a une alternative pour le train à 2h30, ça s'est fait sans tram. Vous faites plus de Bordeaux-Orly par exemple.
Oui.
Mais par contre vous faites un Bordeaux-Roissy.
Mais là vous faites un Niscan en avion, Niscan c'est 33 km.
Oui, mais ça rapporte des dizaines de milliers d'euros à l'économie locale. À l'industrie française, à l'économie du luxe, à l'économie du tourisme.
Alors, je vais dire une chose.
Et si vous voulez interdire, on pourrait taxer.
Alors, on peut faire les deux. D'abord, parce que on peut interdire un certain nombre de pratiques. Oui, le Niscan en jet, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et on peut taxer, d'ailleurs. Le milliardaire dont je parle explique qu'il faut taxer de manière très importante, à minima, pour les vols qui sont très nécessaires, pour des raisons professionnelles, par exemple, pour des raisons médicales, éventuellement. Mais ces espèces de vols qui sont même pas des vols de loisirs, qui sont juste de la démonstration de... capacité à gaspiller de l'argent, ça c'est pas logique. Et je termine là-dessus sur est-ce que la France peut ? La France c'est la principale destination touristique du monde. Tout le monde veut venir en France. Quand on a dit qu'il y avait plus des bus qui allaient s'enquiller les uns derrière les autres avenue de Rivoli, bah on y arrive et les gens viennent quand même visiter le Louvre.
On parle de Cannes dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vedettes, il y a des stars qui y viennent.
Elles viendront quand même.
7h57 sur RMC Story. De toute façon, on n'allait pas vous mettre d'accord ce matin, mais dites-nous vous ce que vous en pensez, que ce soit pour le festival ou d'autres déplacements. D'ailleurs, 32-16, vous serez les bienvenus en direct avec nous. Dans un instant, la météo, le journal de 8h. Et juste après, l'économie avec vous, Emmanuel Lechypre.
Eh oui.
On parle d'immobilier, de logement.
Oui, le logement neuf espérait sortir en fin de la crise, il y replonge.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous sommes à Nantes. Dès le début de ce journal, on en est à 26 fusillades depuis le début de l'année dans la métropole nantaise sur fond de trafic de drogue. La dernière en date, hier soir, un adolescent de 15 ans tué par balle dans un hall d'immeuble. Dans ce contexte, vous allez voir que les biscuits ou les bonbons à base de CBD deviennent interdits à la vente à partir de ce matin. Et on viendra aussi, bien sûr, sur la liste des Bleus pour la Coupe du Monde de football qui commencera le mois prochain. C'est quoi le programme maintenant pour les Bleus? Vous allez voir qu'ils vont se réunir, mais alors à la dernière minute.
La ville de Nantes est endeuillée ce matin.
C'est la maire de la ville, Johanna Roland, qui le dit au lendemain donc de cette nouvelle fusillade sur fond de narcotrafic survenue hier soir, la 26e depuis le début de l'année dans la métropole. Cette fois, c'est un adolescent de 15 ans qui a été tué par balle. Un autre de 13 ans est entre la vie et la mort. Ça s'est passé dans le quartier Port-Boyer. C'est d'ailleurs la deuxième fois en moins d'un mois, Lucas Laubert, que ce quartier est endeuillé par une fusillade.
Oui, dans le quartier, la stupéfaction règne. À bord d'une voiture, la mère d'une des victimes crie son désespoir. Paola, elle, est la tante de l'adolescent de 15 ans décédé. Elle est désemparée.
C'est la consternation, on est sous le choc de tel drame. En fait, on en a marre, on ne veut plus, on vit dans la peur. J'étais juste assis, en train de parler, de rigoler, et puis il y a quelqu'un qui est arrivé, voilà.
Et c'est alors que des tireurs ouvrent le feu dans le hall de l'immeuble, tuant son neveu. Deux autres jeunes sont blessés. L'un d'eux est poursuivi jusqu'au 13e étage par les tireurs avant qu'ils ne prennent la fuite. Un probable règlement de compte sur fond de narcotrafic, selon le procureur de Nantes. Un drame absolu, se désole la maire de la ville, Johanna Roland.
Des règlements de compte qui tuent des adolescents dans des quartiers. Un narcotrafic qui gangrène le pays. Oui, la mobilisation doit être absolument totale.
Il y a quelques semaines déjà, une autre fusillade avait endeuillé le quartier, faisant un mort et un blessé grave.
Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sera sur place à Nantes ce matin. Il va arriver à 9h30 environ, un peu plus tôt dans la semaine. Vous vous souvenez que c'est à Nice qu'une fusillade avait fait 2 morts et 6 blessés. Ça s'était passé dans le quartier des Moulins. D'ailleurs, 4 suspects, dont le tireur présumé, sont en garde à vue depuis hier. Alors, on l'a appris cette nuit, la Marine nationale a annoncé cette très grosse saisie de 3,2 tonnes de cocaïne à bord d'un bateau de pêche dans l'océan Atlantique. Alors c'est dans ce contexte que les règles changent ce matin dans les magasins qui vendent du CBD. CBD étant le cannabis mais sans le THC, c'est légal, je le précise, en France, c'est autorisé depuis des années. Louis Salé pour RMC en direct ce matin, c'est lié donc à une réglementation européenne. tous les produits alimentaires à base de CBD deviennent interdits à la vente. Concrètement, on parle de quoi ?
Alors, on parle des tisanes, hein, des huiles, des bonbons qu'on appelle souvent des gummies et des compléments alimentaires aussi. Ils sont vendus dans les magasins spécialisés ou en pharmacie et c'est 40% du chiffre d'affaires de la filière. Ces produits n'ont jamais été officiellement autorisés par l'Union européenne. Jusqu'ici, l'État français fermait les yeux, mais il y a un mois, le ministère de l'Agriculture a annoncé qu'il fallait les retirer de la vente. Frédéric est responsable d'une boutique de CBD. Il est sidéré.
Toutes ces petites huiles qui vont être alimentaires vont être interdites, les bonbons, les infusions aussi. C'est pratiquement 50% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quand même énorme. Et des clients français ou européens vont aller se procurer ce genre de produits à l'étranger. Il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas. Même eux, ils ont du mal à comprendre.
Difficile de savoir si le ministère interdit aussi ces produits pour des raisons sanitaires. Il n'a pas répondu à nos sollicitations. Le CBD n'est pas nocif pour la santé, mais il contient une petite dose de THC. Si cette dose dépasse le seuil légal de 0,3%, alors on peut ressentir les mêmes effets psychotropes que le cannabis. Selon l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, ce seuil n'est pas toujours respecté dans les produits à base de CBD. On y retrouve aussi parfois des cannabinoïdes de synthèse, des molécules interdites qui reproduisent chimiquement les effets du cannabis.
Louise Salé, on va réagir ce matin avec vous au 32-16 sur ce débat-là. Faut-il interdire tous ces produits alimentaires à base de CBD ? Ce qui se fume reste autorisé. Hein.
Absolument.
Louise Salé, mais les bonbons, les gâteaux, les tisanes, vous en consommez, vous les vendez peut-être. Appelez-nous au 32-16, vous serez en direct avec nous.
De l'attention en Lozère, où autorités et agriculteurs aussi redoutent l'installation d'une rave party dans le département avec des teufeurs en plein débat parlementaire pour créer un nouveau délit jusqu'à 1500 personnes recensées sur place d'après la préfecture dans une zone de moyenne montagne où en plus de tout ça, le temps doit être mauvais ce week-end. C'est une inquiétude sur place, car c'est quand même l'info de ce pont de l'Ascension avec une météo pourrie et même de la neige qui tient en montagne à tel point que certains vont rechausser les skis ce week-end à Lougarnier.
Il est tombé 25 cm de neige hier dans la station de l'Alpe d'Huez. Romanie est monitrice de ski, alors elle et ses élèves en profitent.
Elle est bonne, c'est de la neige fraîche. C'est facile à skier, on se régale de la neige comme en plein hiver, quoi. Ça fait toujours plaisir.
Dans sa station, il devrait neiger jusqu'au début de semaine prochaine. Et avec le froid annoncé, elle espère que la neige tienne.
On est content parce qu'on sait que les prochains week-ends, on va pouvoir s'entraîner sans se poser de questions de si les cailloux vont ressortir, si on va abîmer les skis. Tout est là pour le plaisir.
Même engouement du côté d'Aladji. Il vit en bas de la station de Sixfer à cheval en Haute-Savoie. Il voit la neige tomber depuis sa fenêtre. Pas commun pour un week-end de l'Ascension, selon lui.
Un peu plus en altitude, je pense que ça a bien neigé 15-20 cm, parce que ça a vraiment bien blanchi. C'est pas souvent, ça arrive quand même plus en avril. Là, ça continue encore en mai, c'est étonnant, ça change.
Alors le programme de son week-end est tout trouvé.
On va peut-être se motiver à monter en raquette et sortir le snow et faire une descente si on peut, pour retoucher la neige peut-être la dernière fois de la saison.
D'autant plus, il l'ajoute, qu'il n'y a pas grand monde sur les pistes à cette époque-là de l'année.
Je vous signale que ce vendredi est une journée de deuil national en Ukraine. Il a été décrété après une attaque russe qui a fait 24 morts. C'est un nouveau bilan ce matin dans la capitale Kiev. Les Russes, eux, disent que cette nuit, des frappes ukrainiennes ont fait 3 morts au sud de Moscou. Et c'est dans ce contexte aussi que le trafic aérien a été suspendu pendant 3 heures. La tôt ce matin en Finlande à l'aéroport d'Helsinki en raison d'une nouvelle alerte aux drones. Autre info du matin, le sommet Chine-États-Unis qui s'est terminé là cette nuit à Pékin. Xi Jinping a demandé la réouverture du détroit d'Hormuz à Donald Trump qui lui s'est vanté d'avoir signé des accords commerciaux fantastiques. Ce sont les mots, le jargon habituel du président américain.
Alors, puisqu'on parle des États-Unis, on connaît depuis hier soir les noms des 26 joueurs qui s'envoleront pour la Coupe du Monde de foot en Amérique.
Avec 3 surprises, le gardien Risser, le défenseur Lacroix et l'attaquant Mateta, tous les 3 retenus. Il y a des absences notables, je pense au gardien Chevalier, au milieu Camavinga, Tolisso, aux attaquants aussi Thauvin, Colomouani. Il n'y a aucun Marseillais dans cette liste de Didier Deschamps. C'était plus arrivé depuis 1986. On est donc à moins d'un mois maintenant de la Coupe du Monde. Nicolas Pelletier, vous faites partie, vous êtes une des 40 personnes sur place pour RMC, dispositif énorme. C'est quoi le programme là pour les Bleus? Quand est-ce que ça commence vraiment?
Les 26 Bleus convoqués vont donc désormais terminer leur championnat respectif, puis ils sont attendus le 29 mai à Clairefontaine où ils devraient arriver au compte-gouttes. 6 joueurs, notamment ceux de l'effectif du PSG, sont concernés par la finale de la Ligue des Champions. Ils ne rejoindront le groupe que le 1er juin. Derrière, l'enchaînement sera très rapide pour les Bleus. 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire le 4 juin à Nantes avant de défier l'Irlande du Nord à Lille le 8. Les hommes de Didier Deschamps décolleront pour Boston le 10 juin, le temps de s'adapter à l'air américain et de prendre en compte le décalage horaire. 6 jours pour se mettre en jambe avant le grand moment très attendu, le premier match du mondial contre le Sénégal prévu le 16 juin à New York. Et élément important, temps, surtout dans une préparation. En cas de blessure, le règlement est clair. Didier Deschamps a jusqu'au 15 juin pour effectuer un changement dans le groupe France.
Voilà, au stade de New York, ce premier match de l'équipe de France sera juste à côté du studio de RMC, d'ailleurs, radio officielle de la Coupe du Monde. Kylian Mbappé tiens, a dit aux supporters hier soir qu'il espérait les rendre fiers. Il a rejoué hier Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Real qui a gagné 2-0 contre Oviedo, mais tout ça est anecdotique. Mbappé avait loupé les deux derniers matchs. Il avait fait parler de lui pour une virée en Sardaigne. Ça lui a d'ailleurs valu cette bronca. Écoutez, les sifflets du public à Madrid. Alors, il a quand même précisé que cette virée avait été autorisée par le club. Il a réglé ses comptes avec tout le monde. Mbappé, c'était un peu surréaliste là hier soir en partant même au clash avec son entraîneur qu'il avait mis sur le banc de touche.
Merci Quentin Vinet, il sera plus applaudi par les supporters des Bleus cet été, Kylian Mbappé.
On espère, ouais.
Perspective le 11 juin, bah, c'est sûr. Vous avez vu cette attaque? Mine de rien, Nicolas Pelletier, on a une attaque qui doit faire trembler le monde entier, là, non?
Exceptionnel, tout le monde tremble.
Attaque.
Enfin, la dernière fois qu'on a dit ça.
Pour faire plaisir.
La dernière fois qu'on a dit ça, c'était à l'Euro, hein, vous vous souvenez? Griezmann, Mbappé,
oui,
Benzema.
Oui, oui. Oh. Avant ça, on a fait une finale de Coupe du Monde et on a gagné celle d'avant. Qu'est-ce qu'il vous faut quand on termine? Cette génération voilà. D'enfants gâtés. Ils savent pas voilà. Ce que c'est. La dernière Coupe du Monde aux États-Unis, on n'était même pas qualifiés. On y va. On
94, ouais, ça va.
Allez, on a les 26, ça vous fait réagir. Vous continuez au 32-16, évidemment. C'était le journal de Quentin Vinet. Merci, mon cher Quentin. Et je vous signale juste, au passage, la sortie du 4e épisode de la nouvelle voix de l'After à 18h ce vendredi sur la chaîne YouTube de l'After Foot. 5 nouveaux candidats qui s'affrontent. Ce sera à Bollaert, Lens, pour devenir la nouvelle voix de l'After. Écoutez, c'est le dernier épisode avant la demi-finale.
Toi, pourquoi ce serait toi?
Parce que je pense que je peux apporter quelque chose à cette émission. Tout d'abord, j'adore parler foot, j'adore avoir des avis tranchés, j'adore le clash, j'adore rendre fou les gens et je peux éteindre des joueurs.
Éteindre des joueurs?
Éteindre des joueurs.
Je trouve que ta volonté, là, elle est quand même trop affirmée.
Et presque un peu agressive,
ouais.
J'ai envie de dire. Quand je dis éteindre un joueur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des prestations qui ne sont pas à la portée de l'ambition, qui ne sont pas les moyens investis sur ce joueur, t'as besoin d'allumer la lumière sur ce joueur. Et pour allumer la lumière, bah, par exemple, faut rappeler des vérités. C'est ça derrière ce que j'entends quand je dis éteindre un joueur.
On aurait dû postuler, Quentin, non? On aurait dû y aller. 4e épisode de la nouvelle voix de l'After. Rendez-vous à 18h ce soir sur la chaîne YouTube de l'After Foot. Il est 8h10 sur RMC et RMC Story. Lui aussi, il aurait pu postuler. On va parler d'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
La construction de logements neufs était censée repartir, Emmanuel Lechypre. Elle s'enfonce dans la crise.
Oui, je rappelle que j'étais au Parc des Princes quand on a perdu contre la Bulgarie la dernière minute.
Au passage, 93.
Je regrette que vous m'ayez rappelé ce mauvais souvenir.
Le trauma.
Voilà, et je n'ai pas de meilleures nouvelles non plus.
Pour vous n'allez pas aux États-Unis, Emmanuel?
Non, j'y vais pas. Non,
ouais, non s'il
pas.
Vous plaît.
Pas de chat noir, pas de chat noir. Et c'est pas mieux. Et c'est pas mieux. J'ai pas de bonnes nouvelles du côté de la construction de logements. Les résultats du premier trimestre que vient de publier la Fédération des promoteurs immobiliers sont tout simplement catastrophiques. Les mises en vente ont chuté de 19% par rapport au premier trimestre 2025, qui était déjà pas très reluisant. Jamais elles n'ont été aussi peu nombreuses sur un trimestre. Le retrait d'opérations immobilières, c'est-à-dire la part des logements qu'on retire de la commercialisation parce qu'on trouve pas de clients, eh bien ce nombre est reparti à la hausse pour le 4e trimestre consécutif. C'est 24% désormais, un logement sur 4 qui est retiré de la vente, faute de demande, de la part des particuliers et encore plus de la part des bailleurs sociaux.
Mais pourtant, on peut pas dire que le gouvernement ne fait rien.
Bah, il faut reconnaître que les professionnels de l'immobilier s'étaient bien battus face au gouvernement qui se sont succédé depuis la dissolution pour obtenir finalement du soutien. Il y avait ce statut du bailleur privé dans le budget 2026 qui était censé relancer l'investissement locatif. Il y a le projet de loi de relance du logement, mais tout ça pèse peu face à la guerre en Iran, au retour de l'inflation synonyme de hausse des taux d'intérêt, face au changement permanent de réglementation, l'interdiction des chaudières à gaz par exemple, qui va renchérir le coût des constructions, et puis il y a la perspective de la présidentielle qui crée un attentisme qui n'est jamais favorable au marché de l'immobilier. Le résultat, c'est que le secteur perd 250 emplois par jour, l'équivalent d'une usine qui ferme chaque jour dans le secteur de la construction.
Alors les chiffres du jour, on revient sur le terrain, vous les avez évoqués, mais on revient sur le terrain des énergies.
Mais oui, des bonnes nouvelles pour le gazole. 2,13 € le litre. On est à moins 3 centimes sur une semaine. On n'avait pas vu des prix aussi bas depuis la fin mars. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, sur le sans plomb 95, hein, on est stable. On reste au-dessus de la barre des 2 €. Le pétrole tendu toujours. Hein, 106 dollars, le baril. On est au-delà de la barre des 105 depuis le début de la semaine. Et puis sur le gaz, ça se tend un petit peu. 47 7,50 € le mégawattheure. C'est le plus haut depuis deux semaines.
Bon, on retiendra que le gazole est au plus bas depuis la fin du mois de mars.
Absolument.
On prend ce qu'il y a à prendre. Hein. On fait comme ça. Il est 8h13 sur RMC et RMC Story. Dans un instant,
votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant, Arnaud Demange qui débarque pour nous faire rire. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, au micro de Marie Chantret. Et puis juste après, la semaine face à Conteloup à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour. Bonjour Arnaud Demange.
Bonjour Mathieu Béliard.
Ça va bien et vous?
Bah pas mal.
Bonjour Élise Dangean.
Mais,
belle énergie. Bonjour Anthony Kazmarek. Bonjour. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Déjà 44 ans. Ouais. À quel point ça pousse. Toujours aussi heureux de vous retrouver en ce vendredi du pont de l'Ascension. On salue aussi les 6 auditeurs qui nous écoutent pendant que le million habituel c'est fait bon. La grasse mat. On n'est pas bien là tous les 10, hein, franchement. C'est cool. Alors, comme c'est une journée pas hyper importante, eh ben, c'est l'occasion de parler des sujets sans intérêt. Et vous allez voir comme ça tombe bien.
Oula.
Florian Philippot, le président des Patriotes, a annoncé être candidat à l'Élysée. Donc, Nicolas Dupont-Aignan voit débarquer un rival sur le marché des complotistes pro-russes et anti-vax. Et ils vont se battre tous les deux pour 1% des voix. Quel match! En football, ça s'appellerait le patético.
Vous avez raison, c'est une info de jour.
Ah ouais, c'est une info. Alors là, fin de semaine, fin de week-end. Alors, petit conseil pour Florian Philippot, n'imprime pas des affiches tout de suite, mon grand. À la dernière présidentielle, il avait reçu un seul parrainage. Voilà. Un. Et je pense d'ailleurs que c'était une erreur ou une arnaque, genre.
Et vous êtes sûr, vous êtes Édouard Philippot, l'ancien Premier ministre?
Ouais, mais signez-la, monsieur le maire. Aux européennes, il avait été battu par le Parti Animaliste. Il avait été battu par une affiche où il y a un chat. Sur la prochaine, il pourrait se déguiser en chien avec un collier et une babale au pied de Poutine. Ça lui irait bien. Alors, sur le site des Patriotes, on peut acheter des badges pour payer sa campagne. Et à votre avis, est-ce qu'on peut, oui ou non, acheter ce badge sur le site de Florian Philippot? Vous êtes prêts?
Allez.
Le badge, allez. Je ne me reconfinerai pas.
Je suis sûr que oui.
Oui. Le badge, j'aime la vie.
Non.
Oui, oui, bien sûr. Non à la Troisième Guerre mondiale.
Oui.
Mon grille-pain est un espion, non aux objets connectés.
Non,
malheureusement, non.
Mais vous savez pas, il va
prochaine collection. Sauvons nos vaches.
Non.
T'as un badge, oui, sauvons nos vaches. Je suis un lion, pas un mouton. Alors il y a une référence à PNL, on est d'accord. Mais il y est. Le badge, je ne suis pas un rhinocéros. Alors oui.
Non plus.
Aussi, si,
il y est. Hein.
Il y est.
Carnaval des animaux.
Et, le badge, et pourtant, elle est plate.
Non, il n'a pas osé quand même.
Ce sera l'an prochain.
Ouais,
Encore une fois, l'an prochain.
Ça arrive. Alors, selon le Figaro, le chanteur Vianney aurait acquis 80% du 43e étage de la tour Montparnasse.
Escroc.
Drôle d'info, ça.
Escroc. Saligo. Ah, il s'est bien foutu de notre gueule avec sa cabane en rondin. J'étais à ça de lui acheter son album pour qu'il puisse s'offrir des couvertures pour avoir un endroit chaud l'hiver. Et en fait, non, il vit au meilleur endroit de Paris. Si, c'est le meilleur endroit de Paris. Enfin, je veux dire, moi, je suis comme tous les Parisiens, la tour Montparnasse. Je suis pas fan, mais c'est vrai que quand t'habites dedans, bah tu la vois plus la tour Montparnasse. C'est malin. Non, je pense qu'en fait il s'est rendu compte que autant construire une cabane en bois c'est sympa, autant vivre dedans c'est pas dingue. Il a dormi deux nuits. Mais en fait là dedans on gèle. La nature ça va deux minutes. Allez, je me prends un jacuzzi avec deux Ukrainiennes en string. Ça m'en changera des castors avec qui je mangeais du lichen. Je me suis acheté un Hummer. Demain je pars en safari et je vais sniffer de la coke en tirant dans des éléphants. Non mais quand même quoi.
Bon, demain soir c'est la finale de l'Eurovision.
Oui, l'Eurovision, donc ce concours étonnant, hein, on dirait un concours de patinage artistique mais sans les patins, très bizarre. Une Eurovision très politique.
Ah, vous dites une, vous?
Oui, ou un Eurovision, ouais, je sais pas. En tout cas, c'est très politique parce qu'avant, bon, on regardait surtout pour se moquer, vous voyez, c'était la kermesse de fin d'année, on rigolait parce qu'il y avait des bosniaques moustachus avec des coupes au bol qui s'éclataient sur de la techno minimale. Et après, il y avait une chanteuse lyrique moldave qui faisait de la harpe laser dans des fumées violettes.
Bonjour.
Des cosmonautes recouverts de papier d'alu qui descendaient du plafond. Mais là, c'est une Eurovision un peu spéciale, ouais, puisque l'Espagne, la Slovénie et l'Irlande boycottent le concours à cause de la présence d'Israël. Les Insoumis aussi ont appelé au boycott, voire à l'escalade. Ils ont dit, si Israël envoie un chanteur de l'Eurovision, on doit répliquer, on doit organiser un Tel Aviv, un concert avec trois cafés gourmands, montrer qu'on se laisse pas faire, et rajouter Francis Lalanne et Patrick Sébastien. Ça va se finir au tribunal pénal international. La France sera représentée par la jeune Monroe et sa chanson Regarde. Très lyrique. Et tiens, là on fait un deuxième quiz, c'est un vrai quiz. Attention, main sur le buzzer, on joue. Est-ce que cette chanson a représenté la France à l'Eurovision?
C'est parti.
On se détend, c'est parti. Est-ce que la France a été représentée par Moi je voulais une moustache?
Oui.
Ah oui. On écoute. Moi je voulais une moustache. Eh oui, vous avez raison.
Alors, t'as fait gaffe.
Annie aime les sucettes à l'anis.
Bah oui.
Artus aime les sucettes à l'anis
non.
aussi. Est-ce que la France a été représentée par cette chanson? Non, on n'a pas osé.
Dû, hein,
on aurait peut-être pu. Gérard Lenormand a-t-il représenté la France?
Oui.
Non.
Oui.
Oui, avec ça.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Oui. Ça date, hein. Est-ce que la Belgique a été représentée par cette chanson? Oui.
C'était une chanson de l'Eurovision, ça.
Xavier Dupont de Ligonnès a participé avec la chanson N'avoue jamais.
N'avoue jamais, jamais, jamais.
Donc c'est une vraie chanson de Guy Mardel. Est-ce que la France a été représentée par cette chanson? A été représenté par Macron qui chante la bohème en Arménie. Il aurait été capable de faire l'Eurovision. Il faut tout faire soi-même dans ce pays. Vous êtes nuls. Vous arrivez toujours dernier. Je vais m'en occuper. Mal aidé. Je ne suis pas aidé. Allez, bonne Eurovision.
On y croit ou pas?
Bon week-end.
Arnaud.
Je pense
d'ordinaire, la veille, on dit oui, on peut faire
oui,
un bon score.
Entre dernier et avant-dernier, je pense qu'on peut viser ça, comme d'habitude.
Il n'y a pas de cœur, Élise.
Et puis, on a un message sur le WhatsApp d'un de nos 10 auditeurs, je ne sais plus combien t'en as compté, qui nous dit on est bien, t'inquiète, merci Arnaud.
Oh, bon, on l'embrasse.
Ils sont là, évidemment.
Vous savez, les
jours fériés.
Il est là.
Les jours fériés, on parle à moins de monde, mais ceux qui nous écoutent, ils ont vraiment besoin de nous.
On privilégie la qualité à la quantité.
Voilà, c'est pour vous ce matin. Et Olivier fait partie de ce pack qualité du pont RMC dans le Pas-de-Calais. Je sais pas comment vous présenter. Salut Olivier.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC, mon cher Olivier. Vous avez suivi l'annonce des 26 sélectionnés pour la Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique. Vous êtes content?
Oui, dans l'ensemble, je trouve que Didier Deschamps a fait une bonne sélection, même si c'est pas trop facile à sa place de choisir les uns au détriment des autres. Bon, le seul hic, étant canadien, mon club de cœur, c'est Lens. Bon, bah, je suis content pour le gardien de but, le troisième gardien de but.
Ah, vous regrettez Thauvin?
Mais je suis déçu pour Thauvin parce que je pense que c'était sa dernière. Il aurait tout donné. Il a fait un beau, une belle année de championnat et ça aurait été un super joker. Donc pas titulaire tout le temps, mais ça aurait été un super joker pour l'équipe de France.
Voilà. Mais c'est concurrentiel l'attaque. Hein. Vous avez vu Olivier l'attaque des Bleus. C'est vrai qu'elle fait peur. On en parlait avec Nicolas Pelletier. Mais vous, évidemment, le Lensois que vous êtes, le Nordiste que vous êtes, critique. Regrette l'absence de Florian Thauvin. Champion du monde, hein, d'ailleurs, 2018, Thauvin, non?
Tout à fait, oui.
Oui, on est d'accord. Merci, Olivier.
Je vous en prie,
on continue d'en parler, hein, d'ailleurs, sur RMC toute la journée. Vous ne manquerez rien, de toute façon, jusqu'à la finale. Hein, au mois de juillet, vous rentrez dans un mode Coupe du Monde. Vous savez que vous êtes ici, chez vous, les fans de foot, et que vous ne manquerez rien. J'ai vu passer un 35 heures sur 24.
Ah oui,
ça fait rire Arnaud. Mais parce qu'on a des
radios
spécialisées,
radios dédiées.
On produit des, en 24 heures, vous n'avez pas le temps d'écouter tout ce qu'on va vous proposer sur la Coupe du Monde. La Dream Team RMC Sport avec 4 champions du monde, nos 40 envoyés spéciaux aux États-Unis, Canada, Mexique. Bref, vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix. Il est 8h23. Et dans un instant, le face-à-face, Marie Chantrey reçoit Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme sur RMC et BFM TV, 8h24.
Merci d'écouter RMC, il est 8h25. Le rappel des titres avec Clément Gouiz.
On connaît les 26 bleus pour conquérir le mondial. Didier Deschamps a dévoilé sa liste hier soir des absents. Camavinga, Chevalier, Kolo Muani. Et des petites surprises, hein, le gardien Lensois Rissert, Jean-Pierre Philippe, Mateta et Maxence Lacroix. Début du mondial le 11 juin prochain. Nantes secouée par une nouvelle fusillade, la 26e depuis le début de l'année. Un adolescent tué hier soir, 2 autres blessés, dont un grièvement. Un règlement de compte, hein, sur fond de narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, attendu sur place ce matin. Un dernier hommage rendu aujourd'hui à Chloé, cette collégienne tuée de plusieurs coups de couteau la semaine dernière à Fère en Tardenois dans l'Aisne. Ses obsèques se dérouleront à 14h. Le suspect a été mis en examen pour assassinat et viol. La météo, encore un temps bien perturbé entre le sud-ouest et les régions de l'Est. Ciel très nuageux près de la Méditerranée. Côté température de 0 à 13 degrés. Et cet après-midi, il fera de 11 à 20 degrés. 11 à Langres, 16 à Bordeaux et 20 à Nice.
C'était le rappel des titres de Clément Gouiz. Merci Clément. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Marie Chantrey reçoit Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, membre de la commission des finances.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Madame Chantrey, merci de votre invitation.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, député RN de la Somme et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. En direct encore ces images de l'avion Air Force One du président américain Donald Trump qui repart d'un sommet de deux jours exceptionnel à Pékin. On reviendra sur ses conséquences éventuelles. Ce blocus du détroit d'Ormuz et Pékin qui le redit. La réouverture dès que possible. Est-ce que cela peut avoir des conséquences, on le souhaite en tout cas en France, sur les prix du carburant. On verra ça en longueur avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, cette information de la nuit qui marque les esprits, qui les choque également. Un adolescent à Nantes de 15 ans a été tué hier soir. Deux autres mineurs ont été blessés. L'un est entre la vie et la mort. Dans un quartier déjà touché d'ailleurs par des tirs mortels sur fond de narcotrafic. Depuis le début de la semaine, Jean-Philippe Tanguy, on est à six victimes sur tout le territoire liées au narcotrafic. L'État est-il dépassé ?
Oui, de toute évidence, malheureusement, le gouvernement est dépassé avec des communications qui allaient à l'inverse. On se souvient des opérations de Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, reprises par son successeur.
Les opérations Place Nette.
Exactement, cette application Place Nette. Déjà à l'époque, on disait, écoutez, toute opération est bienvenue, mais quel sera le lendemain de ces opérations? Quel sera le suivi pour la sécurité des habitants, des familles, des sécurités des forces de l'ordre elles-mêmes, qui opèrent dans des conditions on ne peut plus difficile de guérilla urbaine avec effectivement ces fusillades et ces morts insupportables pour les familles, pour les proches. Parfois, il y a des personnes victimes qui n'ont strictement rien à voir avec le narcotrafic.
Ça a été le cas visiblement à Nice cette semaine.
Et même quand ça a à voir avec le narcotrafic, personne ne mérite de mourir sur des balles, même si vous êtes lié directement ou indirectement à un narcotrafic. Évidemment, donc le dépassement de l'État est réel et il y a malheureusement une banalisation de la violence, parce que vous disiez à juste titre, Madame Chantrey, le nombre de morts. Donc 6 morts qu'il y a eu sur notre territoire.
Depuis juste le début de cette semaine. Laurent Nunez.
Je pense qu'il y a 10 ans encore, ça aurait donné lieu, chaque mort aurait donné lieu à un scandale national. Et que maintenant, 6 morts semblent être malheureusement une dépêche de presse, comme s'il y avait une banalisation de la violence sur le narcotrafic. Il ne doit jamais y avoir de
on
banalisation
de la violence. On s'en fait l'écho ce matin et on le commente.
Je parle pas de vous, je parle de la classe politique.
Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, doit se rendre sur place. Une forme d'impuissance des pouvoirs publics, ça vous le déplorez, mais vous êtes aussi, vous, votre parti, candidat à l'élection présidentielle. J'entendais hier Jordan Bardella en déplacement à Beaucaire qui disait « Si les Français nous accordent leur confiance, on rétablira le droit de vivre chez soi en sécurité, sans subir le désordre de la rue ou la contestation de nos valeurs. » Au-delà de ces déclarations d'intention, encore une fois, j'ai envie de vous dire, vous aux manettes, vous au pouvoir, que ferez-vous pour lutter contre le narcotrafic? Question vague, mais en même temps, vous avez voté pour le projet de loi porté à l'époque par Bruno Retailleau, largement voté par vos députés. Et dans les faits, rien ne se passe. Ou en tout cas, visiblement, ce phénomène de violence ne fait que s'accentuer.
Oui, alors vous reconnaîtrez qu'à l'époque, nous l'avons voté sans illusion. C'est qu'on ne fait jamais la politique du pire. Il faut noter aussi que ce texte ne serait pas passé sans les voix du Rassemblement National. Ce qui veut dire que la majorité elle-même des autres députés, des autres partis politiques, ne sont pas déterminés à lutter contre le narcotrafic. On est le principal parti d'opposition.
Vous pensez que...
Mais si vous avez besoin du principal groupe d'opposition dans un gouvernement, le Rassemblement National, pour faire passer un texte de loi qui devrait être consensuel, fondamental, compte tenu de la gravité des faits que vous avez exposés. Le texte devrait passer par consensus. Or, il n'est pas passé par consensus. Il est passé parce que le principal parti d'opposition, le Rassemblement National, avec Marine Le Pen, présidente de groupe, a pris ses responsabilités de soutenir un texte d'un gouvernement auquel nous opposons sur le reste des sujets par responsabilité. Parce que
mais sur ces sujets-là,
ça veut dire que
la manière dont
divisé.
Mais sur ces sujets-là, ça veut dire que vous êtes en accord quand même avec la manière dont entreprend les choses le gouvernement, notamment comparant ça à la lutte contre le terrorisme. Tout là-dessus, vous accordez un point au gouvernement de Sébastien Lecornu.
C'est-à-dire dans les paroles, des analyses peuvent être faites qui sont bonnes. Une fois plus, on n'est pas dans la politique du pire. Mais vous voyez, soutenir un texte d'un gouvernement, ce n'est pas soutenir ce gouvernement. C'est pour ça que parfois c'est risqué de le faire. Et que Marine Le Pen est courageuse de soutenir des textes que nous ne soutenons pas. Par ailleurs, l'entièreté de cette politique. Mais il faut le dire. Moi, je comprends qu'en tant que journaliste, vous demandez des mesures précises, ponctuelles. Mais la réalité, c'est que c'est avant tout un état d'esprit. Aujourd'hui, il n'y a pas d'état d'esprit dans le gouvernement, dans les partis du centre, dans les partis de gauche. J'en parle même pas malheureusement, pour se battre contre le narcotrafic, prendre la violence qui est liée directement à bras le corps, soutenir systématiquement nos forces de l'ordre, mettre en ordre de marche l'appareil judiciaire pour qu'il soutienne l'action de ces forces de l'ordre et qu'il n'y ait pas, des impossibilités de travailler ensemble. Parce que moi, on voit sur le terrain, je le vois dans la Somme, même un département rural comme la Somme est touché par d'autres façons, d'autres formes de narcotrafic.
Parce que c'est ça aussi, la nouveauté, ça touche tous les territoires, oui, et ça touche toute la France, plus uniquement les grandes villes, et ça s'étend.
Au territoire, ça s'étend aussi dans les produits, puisque maintenant, il y a aussi des trafics de médicaments utilisés comme des formes de narcoleptiques et de narcotrafic. Donc ça s'étend, et puis, disons-le, quand on voit l'âge des victimes, personne blessée, 13 ans.
13
écoutez,
ans.
Ça fend le cœur, c'est inacceptable.
Poursuivi visiblement dans l'immeuble.
Poursuivi visiblement au 13e étage de son immeuble pour ce règlement de compte. Ces voyous, ces barbares. Mais oui, il faut jamais accepter ça. Voilà. Je sais que la violence désormais des adolescents est de plus en plus précoce, mais ça reste un gamin de 13 ans. Et je crois aussi qu'il y a un combat, évidemment, de civilisation à mener là-dessus. On ne doit pas banaliser le fait que ça touche des enfants. Quand vous êtes à 13 ans, même si vous êtes dans la violence, même si vous êtes dans l'innommable, vous restez un enfant, et notre société ne doit pas perdre ce fil de défendre l'enfance.
Jean-Philippe Tanguy, avant d'en venir, et on voit encore ces images de cet avion américain en train de quitter Pékin après cette visite du président américain, j'aimerais juste une courte question sur ce phénomène, cette vidéo qui est devenue virale en quelques heures seulement, un ex-professeur de sport placé en garde à vue, il a même été mis en examen ces dernières heures, placé en détention. Il correspondait avec ce qu'il pensait être une jeune fille de 14 ans, sans doute pour lui attirer ses faveurs. Il s'avérait que derrière cela, c'était une intelligence artificielle, un youtubeur. Le politique que vous êtes dit, face à ces pratiques, encourager cela, se faire une forme de justice soi-même, ou vous dites, ça me met très mal à l'aise. Dit le politique, le député du Rassemblement National que vous êtes face à ce phénomène?
Mais moi je dis heureusement que la société civile est mobilisée par rapport à la pédocriminalité.
S'empare de ces sujets. Parce qu'il y a quitte à mettre au point ce type de stratagème.
Si vraiment il y a un phénomène inquiétant, odieux, innommable dans notre pays, c'est la pédocriminalité, et les moyens de l'État et la mobilisation de la classe politique est faible, totalement faible. On a vu le scandale à Paris qui a donné lieu à quelques débats polémiques, alors que ça aurait dû être au centre de la campagne municipale, ça aurait dû être au centre.
Il l'a été à certains égards.
Oui, mais je ne trouve pas. Bon, c'est mon opinion. Après, chacun.
Et le maire de Paris a dit sa priorité.
Le maire de Paris, l'administration sortante de la mairie de Paris, oui, très bien, a pu se représenter dans des pantoufles, alors qu'il serait dû être inqualifiable, il aurait dû être disqualifié.
Mais sur ce cas très précis, juste le politique, encore une fois, encourage.
Il faut montrer la banalité, ce qui est sidérant dans cette affaire. Il faut dénoncer, débusquer la banalité de la pédocriminalité. Ce n'est pas un phénomène malheureusement marginal dans la société française. Vous croisez tous les jours malheureusement des enfants, des familles qui ont été touchés, meurtris par la pédocriminalité, et l'appareil d'État et la société française là-dessus n'est pas encore assez mobilisé pour lutter contre la pédocriminalité.
Donc
on voit le scandale dans l'aide à l'enfance.
Vous dites, si la société civile s'empare de ces sujets, même via ces pratiques pratique-là, c'est une bonne chose. Ça peut participer finalement de la dénonciation, voire de l'arrestation de tels individus.
Une bonne chose, je n'utiliserai pas sans doute cette formule. En tout cas, ça participe à la mobilisation de la société, se rendre compte de la gravité et de la banalité de ce mal qui est le pire mal possible pour une société. C'est absolument épouvantable. Moi, j'ai grandi quand j'étais dans mon enfance parallèlement à l'affaire Dutroux. Donc, j'étais une génération mobilisée, peut-être traumatisée, mobilisée par cette pédocriminalité. J'ai l'impression qu'on est resté encore il y a 30 ans en arrière sur la mobilisation de la société. Quand on voit l'état de l'aide à l'enfance, c'est quoi l'aide à l'enfance pour ceux qui nous écoutent? C'est les enfants qui sont gérés par l'État à travers
les
départements. La banalité des agressions sexuelles contre ces enfants qui souvent finissent dans la prostitution de rue, la prostitution organisée, le trafic d'êtres humains. Ça devrait révolter toute la classe politique et c'est traité. Il y a des députés courageux comme chez nous Marine Hamlet, mais il y a des députés courageux dans tous les groupes politiques sur ce sujet. Ça reste un sujet qui était même pas au centre de la dernière présidentielle. Marine Le Pen avait essayé de le mettre au centre de la présidentielle. J'étais bien placé pour le savoir. On n'avait pas réussi à intéresser, la classe politique sur ce sujet. Ça devrait être une priorité et ça devrait transcender les clivages partisans.
Jean-Philippe Tanguy, on en vient donc à cette visite d'État et ses conséquences. Je le disais, Donald Trump reçu en grande pompe par Xi Jinping, le président chinois. Ces déclarations d'intention ce matin, on les a entendues. La volonté de Pékin d'un cessez-le-feu durable entre l'Iran et les États-Unis et la réouverture, dès que possible, du détroit d'Hormuz. On parle du détroit d'Hormuz et ses conséquences économiques en chaîne, en cascade, en Europe et plus précisément sur notre territoire. Des prix à la pompe qui flambent pour le consommateur et un gouvernement qui a promis un nouveau paquet d'aide ciblé, mais toujours pas annoncé. J'ai envie de vous demander ce matin, est-ce que vous pensez finalement, au vu de ces déclarations, que le gouvernement parie peut-être sur une désescalade, suite notamment à cette venue du président américain, pour peut-être déclencher ou pas nouvelles aides?
Moi, je pense depuis le début que ce gouvernement ne cherche qu'à gagner du temps, quelques jours par-ci, quelques semaines par-là, pour ne pas prendre les mesures nécessaires, la baisse massive des taxes qu'ont fait tous les gouvernements européens autour de nous.
Et certains sont revenus dessus. Mais là, il ne s'agit pas de baisser des taxes, mais de nouvelles aides possibles. Cette semaine, elle devait être annoncée, il n'en a rien été.
Oui, mais
la semaine prochaine.
Ils ont utilisé la crise du virus qui n'a rien à voir pour gagner une fois plus une semaine. Ils se moquent des Français. Voilà, ils prennent les Français pour des imbéciles qu'ils ne sont pas en utilisant la montre, en jouant la montre, en faisant croire qu'une semaine de passé, c'est toujours ça de prix pour ne pas prendre les mesures nécessaires. Vous avez dit, oui, c'est pas la baisse de taxes, mais c'est la seule solution pour protéger le pouvoir d'achat des Français, pour permettre aux travailleurs de gagner quelque chose quand ils vont travailler, aux entrepreneurs.
Mais vous pensez vraiment juste
d'éviter la récession?
Mais je rebondis juste.
On a droit dans la récession si on ne prend pas ces mesures de baisse de taxes. Paradoxalement, ça coûtera plus cher aux finances publiques d'aller vers la récession, d'aller dans la récession par irresponsabilité que de faire ces baisses de taxes.
On va revenir sur cette proposition que vous portez en boucle. Pour le coup, on vous reconnaît cette forme de cohérence-là. Juste, je rebondis. Vous pensez vraiment que le gouvernement a utilisé l'argument de l'antivirus pour ne pas procéder à ces nouvelles annonces ou ne pas aller plus loin?
Oui, je le crois. C'est pas je le crois, je le constate. Mais c'est avec un cynisme. Vous savez, ce gouvernement aussi utilise la bonne foi de ses adversaires, la bonne foi du Rassemblement National, mais contre nous en disant bon, on va pas dénoncer leur magouille. Mais ils sont tellement cyniques, c'est absolument épouvantable. L'ambiance d'ailleurs qui règne à l'Assemblée Nationale est très délétère de ce point de vue, parce que les questions au gouvernement, c'est plus des questions au gouvernement, c'est les séances de mensonges du gouvernement. C'est-à-dire que nous savons et nous allons en séance en sachant qu'ils vont nous mentir.
Mais vous
on ne se demande
entendre...
pas comment ils vont répondre, on se demande comment ils vont mentir.
Mais vous pouvez entendre, encore une fois, que ces propos que vous tenez, comme d'ailleurs votre collègue Laurent Jacobelli, ont pu choquer quand même. Il y a une Française et une femme en réanimation. Le sujet était examiné de près, et d'ailleurs il continue de l'être. Considérer que cette excuse de l'antivirus a été prise pour ne pas avancer sur les aides sont des accusations graves quand même.
Ah mais c'est un constat, c'est pas une accusation, c'est devant nous, on le voit devant nous. Pour s'occuper de notre compatriote et de prendre les mesures nécessaires, c'est le ministère de la Santé, c'est Madame Rist. Quel est le rapport avec les aides aux carburants qui sont dirigées par Bercy? Ça n'a rien à voir, c'est eux qui ont tout mélangé, qui ont ils appellent ça des séquences. Je veux dire, c'est face à nous, on les connaît, nous les fréquentons, les socialo-macronistes depuis maintenant presque 15 ans. C'est leur façon malheureusement de travailler.
Et pour bien les connaître, comme vous le dites, cette proposition de baisser la TVA à 5-5, vous savez aussi que c'est une fin de non-recevoir, que ça n'aura pas lieu. Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de changer de demande? Parce qu'ils le disent, c'est un coût trop important sur les finances publiques. Est-ce que le Rassemblement National n'a pas peut-être une autre proposition à formuler?
Mais on a fait d'autres propositions. On a proposé au moins de baisser les hausses de taxes que M. Macron a imposées avec Édouard Philippe, 16 centimes sur l'assise sur les carburants, en plus de la TVA. Mais enfin, s'ils font que l'assise sur les carburants, écoutez, nous on prendra ce qu'il y a à prendre. On a proposé, c'est nous qui l'avons dénoncé, votre serviteur en particulier, la hausse des certificats d'économie d'énergie.
Les fameux C2E. Et Roland Lescure, le ministre de l'économie, oui, dans l'hémicycle, vous en parliez, vous a vertement répondu aussi.
Il a vertement menti, disant que ça n'avait pas de conséquences sur le prix, que ça servait à financer autre chose, que finalement...
La transition énergétique, ça aussi, ça reste une priorité.
Non mais c'est une espèce de mafia, les certificats d'économie d'énergie. Il y a un rapport de la Cour des comptes à la demande du Rassemblement National qui a été fait, qui est extrêmement dur, qui explique que l'essentiel des moyens des certificats d'économie d'énergie sont détournés et inefficaces, et M. Lescure ne veut pas y répondre parce qu'il entretient cette mafia, et de toute façon la Macronie d'une manière générale a un lien extrêmement préoccupant avec un certain nombre d'organisations autour de l'État qui se partagent des prébendes, des quasi-taxes, des monopoles publics qui ont été privatisés. Bon, tout ce petit monde gagne beaucoup d'argent sur le dos des Français.
Jean-Philippe Tanguy,
j'ai dénoncé sur le stock des carburants, 600 millions d'euros payés par les Français chaque année.
Ça, vous dénoncez effectivement, oui, très régulièrement. Est-ce que vous dénoncez aussi l'attitude de Total, de son patron, Patrick Pouyanné? Vous serez à l'audition du patron de Total Energy mois de juin prochain, le 17 juin, en tant que membre de la commission des finances.
Bien sûr.
Ça a une utilité, selon vous?
Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, on sait assez bien ce qui se passe sur le pétrole. Le secteur du pétrole est très surveillé, il est encadré. Tous les prix sont sur le site de Bercy. Les marges, à la fois du transport, de la distribution, du raffinage, sous son Bercy. Donc c'est un business, c'est un métier que l'on connaît assez bien. Mais en fait, comment dire, brandir Total, parler de M. Pouyanné toute la journée, c'est une nouvelle raison pour le gouvernement. Ils veulent parler de taxes sur les super profits, de ne pas parler des super taxes. Voilà. Bon, les taxes sur le carburant, c'est 50-60% du prix du carburant. Donc M. Pouyanné,
une taxe sur les super profits, sur les super profits Total, vous dites pourquoi pas, ça peut être une solution. Mais, aussi,
il y a déjà une taxe aujourd'hui, il y a un super IS, oui, qui est déjà prévu, qui est encore prévu d'ailleurs sans doute pour l'année prochaine. Donc vous voyez, les socialistes par exemple, pas être cynistes, ils ont rien à envier aux macronistes. Vous savez très bien comment ça se passe, une loi. Vous savez très bien que même si on votait une loi sur les super profits, le Sénat la bloquerait, ça mettrait presque un an, et au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les profits, vous pouvez plus les imposer. Donc les socialistes ont autant menti que les macronistes, parce qu'ils savent que cette proposition ne peut pas fonctionner. Ce qui pourrait fonctionner, c'est faire un projet de loi de finances rectificative dès aujourd'hui pour baisser les taxes sur le carburant.
Mais là,
moyen,
vous savez aussi que...
Évidemment, rééquilibrer peut-être avec d'autres dispositifs fiscaux.
Ça ne paraît pas être la perspective. Jean-Philippe Tanguy, à ce moment de l'interview, j'ai envie de vous demander, sur le ton de la boutade, est-ce que vous souhaitez bonne chance à Kylian Mbappé pour la Coupe du Monde qui s'annonce au... aux États-Unis prochainement?
Bien sûr, il faut que la France gagne avant tout.
Il faut que la France gagne et que Kylian Mbappé soit un bon capitaine. Je vous pose la question évidemment suite à ses propos concernant votre parti. Il le dit, moi ça me touche. Je sais ce que ça signifie, l'arrivée au pouvoir du RN, à quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays. Marina Ferrari, la ministre des Sports, a dit que les sportifs sont des citoyens comme les autres. Est-ce qu'elle aurait dû recadrer le joueur de l'équipe de France ou pas du tout?
Non mais ils sont des citoyens comme les autres, et ils sont parfois désinformés comme les autres. Donc moi je me souviens d'une chanson de Diams quand j'étais jeune, puisqu'on parlait de notre jeunesse, où Diams disait qu'elle ne pouvait pas être amie avec Marine Le Pen, et Marine Le Pen lui avait courageusement répondu disant mais venez me voir, venez débattre avec nous.
Elle lui avait même dédié une chanson. Hein.
Oui justement, c'était à l'occasion de ces chansons, et au lieu de raconter des bêtises dans une chanson, on pourra échanger, vous verrez que je ne suis pas la personne qui a été décrite par nos adversaires politiques. Donc je pense que Monsieur Mbappé, il devrait plutôt chercher à rencontrer des personnalités du Rassemblement National, et on lui montrera qu'il a été désinformé, mal informé, et qu'il est sans doute manipulé par des gens qui ne le veulent pas du bien.
Une dernière question, Gérald Darmanin, le ministre de le garde des Sceaux, a dit il y a quelques jours qu'il pensait que le second tour de la présidentielle, ce sera entre Madame Le Pen ou Monsieur Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Vous partagez le même diagnostic?
C'est les Français qui décideront. Vous savez, la campagne est longue. Monsieur Darmanin ferait mieux de s'occuper de la justice et de l'état de l'appareil judiciaire. Moi, l'administration pénitentiaire à Amiens, qui a été en grève il y a quelques semaines, dans des situations extrêmement difficiles, un dénuement matériel, des
c'était
erreurs.
C'était pas le choix de Marine Le Pen, Monsieur Mélenchon au second tour. Elle aurait préférerait Édouard Philippe. Non,
c'est-à-dire que nous considérons que c'est les macronistes qui ont gouverné, qui ont fait du mal à la France, et il faut avoir une explication.
Il faut s'y confronter.
Avec eux, il faut s'y confronter pour que ce soit un choix, pas de rejet, parce que il y a une majorité aujourd'hui pour rejeter M. Mélenchon, ses excès, ses propositions qui n'ont pas beaucoup de sens, mais qu'il faut une adhésion sur notre projet. Et qu'il y aura plus d'adhésion sur le projet porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella s'il y a un débat sérieux contre Édouard Philippe plutôt qu'un débat dans la caricature avec M. Mélenchon.
Jean-Philippe Tanguy, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce vendredi. Il est 8h47 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV.
C'était le Face à Face. Merci Marie Chantret. Dans un instant, la semaine face à Canteloup et Nicolas Canteloup qui revient notamment sur la crainte d'une épidémie d'antivirus.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, le professeur Gilles Pielou était l'invité du Face à Face. Il est resté face à Canteloup.
Rebonjour professeur.
Rebonjour.
Eh bien, figurez-vous que le président Emmanuel Macron voulait réagir.
Je suis malade, complètement malade.
Non mais enfin, tout de même, enfin, on s'adresse au président, pas au chanteur. On sait bien désormais que vous êtes également chanteur, Emmanuel Macron. Vous êtes en Afrique, vous vous êtes longuement entretenu avec Sébastien Lecornu. Qu'avez-vous dit au Premier ministre ?
Si on devait mourir demain.
Non, monsieur le président, sérieusement.
Voilà, c'est fini. Non. Je vais vous confiner à partir de midi.
Non. Monsieur le président, on est à l'antenne.
Mais oui, mais pardon, je suis un an de la quille, voilà, je peux me détendre un peu, voilà. En plus, je suis en Afrique, je risque rien, donc je m'amuse, voilà. Par contre, j'aimerais en profiter puisque vous êtes avec le professeur Piou Piou.
Non, c'est Pialou, Pialou.
Oh oui, ah, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petit. Canteloup m'a. Puis Canteloup, Pialou.
Ouais. Voilà, j'étais pas loin. Oui, non, le professeur Piou Piou, c'est pour la grippe aviaire.
Pardon. Oui.
Bref, j'ai détecté, je m'adresse à lui, et peut-être peut-il m'éclairer, j'ai détecté un syndrome qui m'inquiète un peu. Je vous explique. Depuis quoi? Une petite dizaine d'années, je sens autour de moi une sorte d'épidémie de mécontentement.
Ah oui, oui.
Un peu partout en France, où que j'aille, je sens comme une gêne, une démangeaison avec des sortes de clusters de casse-couilles.
Ah, des clusters de casse-couilles, monsieur le président, oui.
De ci, de là, oui. Par-ci, par-là, celles et ceux,
Oui.
Pourtant, j'ai pris des mesures sanitaires drastiques. Oui. J'ai changé 7 fois de Premier ministre, j'ai dissous l'Assemblée au gel hydroalcoolique pour que les Français puissent changer leur député avec des parlementaires tout propres. J'ai tout fait. J'ai organisé des JO, ça a été une réussite. Nous avons gagné, nous sommes champions du monde en 2018. Ouais. Voilà, je ne sais plus quoi faire. Certains disent que ça viendrait de moi, que c'est moi qui serais porteur du virus. Oui. Mais enfin, pardon, mais je suis sûr que même quand je serai parti de l'Élysée, il y aura encore de la grogne et du goût mécontentement. Donc ça ne peut pas venir de moi.
Non.
Est-ce que j'ai une hypothèse? Pose la question au professeur Piu Piu. Est-ce que ce ne serait pas plutôt les Français qui seraient porteurs du virus? Mais du coup, je ne vais quand même pas abattre tout le troupeau.
Ah non, non, merci beaucoup. D'ailleurs, le professeur Gilles Pialou va étudier tout ça. Merci, monsieur le président. Le professeur Didier Raoult aussi voulait réagir. Ah. Oh mon Dieu.
En tant que sommité mondial de l'épidémiologie, je tiens à saluer Gilles Pialou, même si à l'époque de la Covid, il m'a chié dans les bottes. Enfin, dans les Santiago.
Oui, c'est ça.
En tant que professeur de l'unité Saint-Algue et Jean-Louis David de l'hôpital Harley-Davidson, cette épidémie qui se profile, c'est inespéré.
Bah oui.
Je vais pouvoir enfin refaire un peu de télé, un peu de radio pour expliquer que j'ai, moi seul, la solution. Quelle est-elle? Toutes les études du laboratoire de mon garage le montrent, confirmées par celle de ma buanderie, pour éradiquer définitivement l'antivirus qui est propagé par des rongeurs, il suffit d'associer en bithérapie de la chloroquine avec la morora.
Ah oui, ah bah c'est vrai, c'est efficace ça, dis donc.
Les chiffres sont implacables. Ah oui. Parmi tous mes patients décédés, aucun n'est mort à cause d'antivirus. Donc ça marche dans 100% des cas.
Voilà. Quelle efficacité, merci.
Prends-en la graine, Pichou.
Professeur Didier Raoult. Emmanuel Macron mène actuellement une tournée de 5 jours en Afrique. Il est aujourd'hui au Kenya. Bonjour, monsieur le président.
Ainsi, Bonanga, ainsi, Bona.
Oui, tu dis que ça, bon, il était sud-africain, pas kenyan quand même, monsieur le président.
Oui, mais écoutez, vous en connaissez beaucoup, vous, des tubes qui viennent du Kenya. Moi j'écoute RMC Gold tous les jours, il y en a pas.
Oui, c'est bon, enfin, quoi qu'il en soit, vous avez débuté ce déplacement par une visite de 2 jours en Égypte. Hein.
Barque sur les billes, tout doux. Barque sur les billes, tout doux. Barracuda.
Oui, 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 mais c'est, j'ai pas plus rien à perdre, vous savez.
Oui,
voilà, oui, je vois que vous suivez. Oui, mais oui, j'étais en Égypte, oui, l'Égypte, où nous avons beaucoup échangé avec le, nous devenons sérieux avec le président égyptien, le maréchal Sissi, avec qui je suis très complémentaire, puisque je suis plutôt, moi, le président non-non. Vous allez intervenir dans l'étroit d'Hormuz? Non, non. Vous allez déminer la mer d'Oman? Non, non. Vous voulez baisser les taxes sur l'essence? Non, non.
Oui, donc vous terminez.
Oui, j'explique les vannes.
Oui, j'ai compris. Mais vous terminez.
Je les illustre. C'est une bande dessinée. Mais...
Vous terminerez demain, président, votre tournée à Addis Abeba.
L'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu.
Sérieusement, monsieur le président, pourquoi ces différentes visites donc?
Alors écoutez, après l'Arménie, après l'Andorre, je continue à nouer des alliances avec de grandes puissances pour pouvoir peser face à l'Amérique de Trump, à la Chine de Xi Jinping et à la Russie de Poutine. Et là, je peux vous dire qu'on a un axe. Andorre, France, Arménie, Kenya, qui commence à avoir de la gueule. Si en plus, Madame de Malherbe, demain, j'arrive à convaincre l'Éthiopie, le Liechtenstein, ainsi que les îles Marshall et les îles Truchot, la France va vraiment commencer à peser dans le game.
Pour faire un point sur le foyer d'antivirus, à bord d'un bateau de croisière, on retrouve tout de suite Denis Brognard. Bonjour Denis.
Bonjour, c'est Denis Brognard. Bienvenue dans Koh Lanta Virus. Les aventuriers ont débarqué sur l'île de Tenerife. Ils sont désormais répartis en trois équipes. Les rouges, à plus de 42 fièvres, constituent l'équipe des balados.
Oui.
De l'autre côté de l'île, les verts, de peur, redoutent d'attraper le virus. Ce sont les flippos.
Oui.
Et enfin, l'équipe des blancs, reconnaissable à la couleur de leur blouse, les médicos.
Les médicos.
Un seul but pour ces trois équipes, résister au virus pour éviter de rejoindre la tribu des muertos. Pour cela, mes aventuriers, vous devrez confectionner des masques FFP2. En feuilles de bananier et fabriquer du gel hydroalcoolique à base d'eau de mer, de verre de cocotier et de sauterelles prémâchées. Sans oublier bien sûr l'épreuve des poteaux. 45 jours de confinement sans voir vos amis. Mais attention, il vous faudra également éviter les rats, les souris, les postillons, ainsi que Francis Lalanne qui voudra vous faire croire que tout ceci n'est qu'un complot du KGB chinois-israélien. Mais la sentence est irrévocable. À l'issue de l'épreuve d'inconfort, à bord du bateau Hondius, trois candidats ont déjà dû quitter l'aventure les pieds devant. Parviendrez-vous à échapper à l'antivirus grâce au totem d'immunité? Une chose est sûre, à la fin, il n'en restera qu'un. Ou pas.
Merci Nicolas, on retrouve Face à Canteloup absolument quand on le veut en podcast et puis lundi matin sur RMC. Dans un instant les GG avec Alain Marchal, c'est quoi le programme Alain?
Eh bien dans les GG, dans les grandes gueules, on reviendra sur le concours de l'Eurovision, c'est ce soir. Alors c'est pas tellement les chances de la France qui nous intéressent, quoique, mais c'est surtout la présence d'Israël. Bon nombre de pays appellent au boycott, même des stars internationales disent Israël n'avait pas sa place à l'Eurovision. Vous venez en parler avec nous au 32-16 et puis on regardera aussi les cas contacts, vous savez, l'antivirus, apparemment, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Alors, est-ce que le gouvernement a bien géré? C'est une chose, mais surtout, avec le retour de l'antivirus, on a eu le retour des complotistes. Eh oui, ils sont là, et ça nous fatigue. Et c'est au 32-16 que vous venez en parler avec les GG.